On va commencer. Bonsoir. Donc, ce soir, nous allons aborder un thème un petit peu austère. D'ailleurs, c'est vrai qu'il doit être plus austère que la dernière fois, parce que la dernière fois, la salle était complètement pleine, sur le thème des addictions. Alors, là, on va parler réduction des budgets dans le domaine de la santé. Alors, évidemment, c'est moins affriolant. C'est quand même une question qui nous concerne tous, c'est une question résolument citoyenne, et on est au cœur des problématiques pour lesquelles cette association ASPES, qui organise les conférences 4 fois par an, a été fondée il y a une quinzaine d'années. Donc le principe de nos conférences, c'est de présenter un sujet relatif à la santé, avec l'apport d'experts, de militants engagés, au plan aussi bien syndical, citoyen que politique, pour l'ouvrir au débat avec les usagers. Alors, nos thèmes sont variés. Ce soir, on part du constat que le système de santé français a longtemps été considéré comme particulièrement efficace. Et puis, depuis quelques années, aussi bien ses usagers que les professionnels qui font fonctionner ont l'impression que cette ambition s'étiole, que cette ambition a tendance à disparaître. Les usagers ont du mal à trouver les spécialistes dont ils ont besoin. Alors c'est vrai que ce n'est pas directement lié à la réduction du budget de la santé, mais peut-être à un manque de volonté politique d'une organisation cohérente de la santé. On a l'impression que certains hôpitaux orientent leur activité pour des raisons qui ne sont peut-être pas complètement de santé publique, mais plus de rentabilité financière. Certains rendent certaines de leurs consultations particulièrement peu attractives et d'autres très faciles d'accès. Il y a peut-être des questions à se poser à cet égard. Et puis, quand on travaille dans le monde de la santé, ben on se rend compte qu'on est de plus en plus davantage préoccupé par la nécessité de boucler un budget dont les recettes diminuent alors que les dépenses augmentent, plus que par le contenu de ce qu'on a à y faire. On se demande s'il n'y a pas un glissement des enjeux professionnels depuis les techniciens de la santé, qu'en principe professionnels de santé souhaitent être, vers des gestionnaires de la pénurie en matière de santé, ce qui est quand même pas exactement ce pourquoi on s'était engagé dans ce monde-là. Et puis, surtout, on a l'impression que c'est une orientation sans fin, puisque tous les ans, l'épreuve à franchir semble de plus en plus difficile et qu'on se demande bien comment tout cela va pouvoir évoluer. Donc, voilà un peu les éléments d'introduction qui nous ont amenés à envisager cette soirée. Donc, pour développer ces différents aspects, la problématique sera introduite par Gilles Kerr, qui est un habitué de nos soirées ASPES, et dont on apprécie toujours beaucoup les qualités pédagogiques, et qui va présenter la problématique, l'introduire plus exactement. Ensuite, Didier Bernus, que certains d'entre nous connaissent bien, puisque c'est un local d'origine, qui est maintenant responsable de la Fédération de la Santé et des Services Publics, enfin, ça l'expliquera mieux que moi, à Force Ouvrière, au syndicat Force Ouvrière au niveau national. Présentera donc le point de vue d'un syndicaliste. Et puis Philippe Grégoire, qui est à côté de moi, qui est militant du Parti Socialiste et qui est secrétaire fédéral chargé de la coordination dans la Vienne, présentera un petit peu le point de vue d'un parti politique qui a la gestion des affaires en ce moment et qui est amené à orchestrer, tant qu'il le peut, cette problématique. Voilà, alors je vous rappelle les règles de nos soirées. Donc les intervenants présentent la problématique, chacun à leur manière. Et puis on souhaite qu'après il y ait un temps de débat suffisant d'au moins à peu près 3/4 d'heure avec la salle, sachant qu'on doit terminer la soirée à 22h30. C'est l'engagement que nous prenons auprès de Mendès France qui nous accueille Voilà, messieurs.
Donc, bonsoir à tous. Alors, je vais repartir de la question qui était posée sur, concernant l'intitulé de la soirée, comment maintenir une organisation sanitaire de qualité dans un contexte de réduction de la dépense publique. Alors d'abord, il y a le terme « maintenir une organisation sanitaire de qualité ». Donc ça suppose qu'on avait déjà une organisation sanitaire de qualité par le passé, puisque c'est simplement un maintien qui est envisagé. Alors c'est vrai que en l'an 2000, l'Organisation mondiale de la santé avait mené une grande étude comparant les systèmes de santé, l'efficience des systèmes de santé de par le monde. Et dans une interprétation en termes de résultats comparés par rapport aux coûts, une sorte de rapport qualité-prix des systèmes de santé, eh bien, la France était sortie première sur 140 ou 150 pays qui étaient sous revue. Donc en l'an 2000, l'Organisation mondiale de la santé, alors c'est une étude qui a été beaucoup critiquée sur la façon dont, sur les critères qui ont été appliqués, mais néanmoins l'Organisation mondiale de la santé n'avait pas forcément intérêt à ce que ce soit la France qui sorte en premier, donc il y avait quand même une certaine objectivité, hein, ils n'avaient pas été payés par le gouvernement français pour que ce soit la France qui sorte en premier. Et donc, la France est sortie première, et donc, en effet, on peut penser qu'en l'an 2000, on avait une organisation sanitaire de qualité, du point de vue, justement, du rapport qualité-prix. Alors, la question par rapport à ça, c'est est-ce qu'on était capable de la maintenir ? Est-ce que 15 ans après, ou 14 ans après cette étude, est-ce qu'on est toujours au même niveau de qualité ? Est-ce qu'on est toujours, en termes de bien-être pour la population, est-ce qu'on est toujours au même niveau ? Et puis, surtout, dans un futur proche, comment les choses vont évoluer ? Et puis le deuxième sous-entendu de la question, c'est dans un contexte de réduction de la dépense publique. Alors, contexte de la réduction de la dépense publique, oui et non. Alors, tout d'abord, quand on regarde la dépense publique au niveau général, par exemple les dépenses publiques de l'État, il n'y a pas de réduction de la dépense publique. On continue à avoir une progression de la dépense publique qui va continuer, je vais regarder la dernière loi de finances, donc sur 2014-2017, on prévoit des dépenses publiques de l'État qui vont continuer à progresser entre 1,4 et 1,8% par an. Alors attention, c'est en valeur, c'est-à-dire que c'est pas en volume, on ne met pas de côté l'inflation. Donc quand vous êtes à 1,4 et 1,8% en valeur, ça veut dire qu'en gros en volume, si vous faites abstraction de l'inflation, vous êtes en gros entre 0,2 et 0,5% en volume. Donc disons, pour faire simple, on est plutôt sur une stabilisation, une stagnation des dépenses publiques, c'est ni une hausse ni une réduction. Simplement, étant donné que la croissance économique est extrêmement ralentie, pour ne pas dire complètement nulle, en termes de taux de croissance, hein, pas en termes de qualité, la conséquence, c'est qu'évidemment, le rapport dépenses publiques sur PIB a tendance encore aujourd'hui à progresser. Alors, première chose, donc le budget de l'État, de manière globale, n'est pas... C'est vrai qu'on parle beaucoup de baisse d'impôts, de crédit d'impôt, etc. Mais globalement, quand même, les dépenses publiques continuent à légèrement progresser, mais évidemment à un rythme qui n'a plus rien à voir avec le passé. Alors maintenant, si on s'intéresse aux dépenses de santé en tant que telles, dans la loi de financement de la sécurité sociale, il y a ce qu'on appelle l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. C'est un petit peu l'objectif que se fixe le gouvernement en termes d'évolution globale des dépenses de santé. Alors quand on va voir... Là encore, ce que dit le gouvernement actuel sur l'évolution de la globalité des dépenses d'assurance maladie, il est dit que sur la période 2014-2017, toujours, on est sur un objectif de progression de 2,4% par an. 2,4% par an, donc plus que le budget de l'État, hein, puisque je vous avais dit on était entre 1,4 et 1,8%. Donc il y a quand même une priorité qui est accordée à la santé. Hein. Dans un contexte très difficile... La santé n'est quand même pas le secteur qui est peut-être le plus touché. Simplement, 2,4% de progression par an, je vous rappelle que la population, elle augmente de 0,5% par an déjà. Donc 2,4 moins 0,5 de croissance de la population, ça veut dire que par habitant, vous n'êtes plus qu'à 2% par an. Et deuxième remarque, on estime que sur un pays comme la France, un pays riche comme la France, la croissance naturelle des dépenses de santé, le régime normal, c'est 3 à 4% par an. C'est 3-4% par an du fait du vieillissement de la population, du fait du progrès technique médical, du fait de la priorité accordée à la santé. Quand on regarde les 20 dernières années en France, on est sur une progression des dépenses de santé qui sont, disons, et pourtant on était déjà dans les 20 dernières années sur des périodes de contraintes et de rationnement, on était sur des tendances moyennes de 3-4% par an. Donc viser le 2%, ça signifie que vraiment c'est une rupture par rapport à la tendance du passé. Certes, on n'est pas sur une réduction, on n'est pas sur une stabilisation, ça continue légèrement à progresser, mais c'est vraiment une rupture par rapport au passé, puisque c'est une division par deux du taux de croissance tendancielle les dépenses de santé en France sur les 20 dernières années. Et quand je dis la France, c'est valable dans tous les pays riches, incomparables. Que, je ne parle pas des États-Unis qui sont un cas à part, mais je parle des autres pays européens, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Angleterre, etc. Quand je vous dis 3-4% par an, c'est un petit peu la tendance naturelle. Donc, ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Hein, c'est maintenir une organisation sanitaire de qualité, en effet, par rapport au classement de l'OMS de l'an 2000, on comprend la question. Contexte de réduction de la dépense publique, je ne dirais pas contexte de réduction de la dépense publique, mais contexte de rupture par rapport aux tendances de dépenses publiques et de dépenses de santé du passé, ça oui. Alors ensuite, quand on s'interroge justement en termes de qualité du système, on peut essayer de faire un petit peu un bilan force-faiblesse du système français. Alors comme je suis économiste, chercher du côté des statistiques. Et les statistiques, quand on s'intéresse aux pays riches, généralement, on prend les statistiques de l'OCDE, qui est l'Organisation de coopération et développement économique, qui regroupe les 35 pays les plus riches de la planète, pour le dire simplement. Donc vous avez aussi bien États-Unis, Canada, les pays européens, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. C'est un peu le club des pays riches. Et donc ça vous permet de comparer ce qui est comparable. Vous ne pouvez pas comparer évidemment l'état de santé de la population française avec l'état de santé de pays en voie de développement qui n'ont pas du tout les mêmes ressources. Alors, quand on regarde les statistiques de l'OCDE, qui ont en plus l'avantage d'être harmonisées entre les pays, parce qu'en termes aussi bien de dépenses de santé que de résultats sanitaires, etc., il faut faire très attention à ce que les chiffres soient sur les mêmes bases, sur les mêmes définitions, et que ça soit bien vérifié. Donc on a cette harmonisation. Puis en plus, bon, il faut annuler les effets de taux de change quand on raisonne sur les dépenses. Il faut raisonner à parité de pouvoir d'achat, etc. Il y a des calculs très complexes pour vraiment avoir quelque chose qui est vraiment comparable. Donc c'est l'avantage des statistiques de l'OCDE. Alors, quand on regarde les forces du système français, la première force du système français, c'est au niveau de l'espérance de vie. Au niveau de l'espérance de vie, dans ces 35 pays riches, on est sixième en termes d'espérance de vie, donc c'est pas si mal, hein, d'espérance de vie totale, et avec une grosse différence quand même entre les hommes et les femmes, puisqu'on est 14e au niveau des hommes et 2e au niveau des femmes, donc 2e au niveau des femmes, juste derrière l'Espagne. Pas derrière l'Espagne, derrière le Japon. On est 2e ex aequo avec l'Espagne sur les femmes, derrière le Japon. Alors, ça, c'est l'espérance de vie totale. Donc, on est en effet sur un état de santé. Enfin, si on mesure l'état de santé à l'espérance de vie, on est dans le haut du panier, entre guillemets. Mais simplement, cette espérance de vie, évidemment, elle ne dépend pas que du système sanitaire. Elle dépend aussi des conditions de travail, elle dépend des conditions de logement, elle dépend des styles de vie, elle dépend de l'alimentation, elle dépend de l'environnement, elle dépend de pratiques sportives, etc. Donc, on ne peut pas attribuer toute la qualité de l'espérance de vie en France simplement au système sanitaire. Alors, il y a un deuxième critère en matière d'espérance de vie qui est un peu plus utilisé par les statisticiens de la santé, c'est l'espérance de vie à 65 ans. Donc l'espérance de vie à 65 ans, elle est plus intéressante parce qu'on peut estimer qu'avant 65 ans, ce qu'on appelle la mortalité prématurée est due à des effets qui sont type accident de la route, comportement addictif, etc., alors même si la prévention est nécessaire, mais le système de soins en tant que tel n'est pas en cause. Donc l'espérance de vie à 65 ans est plutôt préférée par les statisticiens de la santé pour mesurer de la qualité d'un système de santé. Or, il se trouve que l'espérance de vie à 65 ans, dans les statistiques de l'OCDE aujourd'hui, eh bien, elle est la plus élevée en France. Donc ce que disait l'OMS en 2000 semble, sur ce critère-là, l'espérance de vie à 65 ans vérifiée. Alors, on a la plus élevée, on est deuxième chez les femmes, deuxième chez les hommes, mais comme le premier n'est pas le même chez les hommes et chez les femmes, on se retrouve premier au niveau global. Donc, chez les hommes, on est deuxième derrière l'Islande, chez les femmes, on est deuxième derrière le Japon, à l'espérance de vie à 65 ans. Donc, on est premier quand on mélange hommes et femmes. Là encore, ça semble être un bon indice. Alors, je vous rappelle juste, en termes de comparaison par rapport au classement dont je viens de citer, que quand on raisonne sur le PIB par habitant, la richesse économique par habitant, la France n'est que 16e. Tous les classements que je vous ai donnés, à part le classement espérance de vie totale sur les hommes 14e, et parce qu'il y a beaucoup de décès prématurés chez les jeunes Français, beaucoup, il y en a plus qu'ailleurs sur des comportements à risque, on va dire comme ça, on est largement au-dessus de cette place de 16e en termes de richesse économique. Donc si on regarde par rapport à notre richesse économique, en effet, il semble qu'on ait un système sanitaire qui soit relativement efficace et qui soit relativement bon en termes d'état de santé derrière. Alors on peut ajouter, peut-être dernière force hein, sur le système français, qu'on a quand même un système qui est très, très très libéral au sens de liberté de choix. On est un pays où, encore aujourd'hui, même s'il y a de plus en plus de contraintes, où on a quand même une liberté de choix de son médecin, où il y a quand même des libertés d'orientation dans le circuit, beaucoup plus, par exemple, que dans le système anglais, évidemment, ou même dans le système allemand, même si, en effet, les choses, là, ont quand même bougé depuis l'an 2000. Simplement, maintenant, il y a le médecin traitant, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc, à l'époque, vous pouviez changer de médecin comme ça du jour au lendemain et être remboursé de la même manière. Maintenant, il y a le système des médecins traitants. Même chose, si vous avez des souvenirs, les visites à domicile des médecins qui étaient encore possibles il y a une dizaine d'années, aujourd'hui, ça s'est réduit quasiment à zéro. Donc, cette liberté du système qui était extrêmement forte encore au moment du classement, cette liberté de choix qui était encore extrêmement forte en 2000 s'est réduite. Néanmoins, on reste dans un système qui est relativement libéral de ce point de vue-là. Alors, ça, c'était pour les bons côtés. Maintenant, les mauvais côtés, les faiblesses. Alors, première faiblesse, je vous ai dit l'espérance de vie à 65 ans, on est les premiers. Maintenant, si on s'intéresse à l'espérance de vie à 65 ans, mais en bonne santé, ce qu'on appelle sans incapacité, eh bien, on tombe à la 11e place. Alors, là, j'ai été assez étonné, et je suis allé regarder, et les premiers en termes d'espérance de vie en bonne santé à 65 ans sans incapacité, c'est les pays nordiques, Suède, Norvège, Islande, Danemark, qui sont les quatre premiers en termes d'espérance de vie en bonne santé, alors qu'en termes d'espérance de vie totale, ils sont qu'entre la 14e et la 28e place. Donc, on fait très fort en termes d'espérance de vie totale, mais en termes de qualité de cette espérance de vie, eh ben on bascule dans la moyenne. Alors, ça, c'est ma première interrogation. On a un système qui permet, je vais caricaturer, mais qui permet de vivre longtemps, plus longtemps qu'ailleurs, mais en ayant un état de santé qui est de moins bonne qualité que dans d'autres pays. Alors que les pays nordiques, c'est l'inverse. Ils sont au classement de l'espérance de vie totale, c'est à 65 ans, c'est uniquement sur l'espérance de vie à 65 ans. Ils sont dans ces classements plutôt en bas du classement, mais ces années de vie qui sont plus faibles que la moyenne, elles sont de qualité. Alors ça, c'est une première interrogation que je voudrais poser. Je n'ai aucune réponse par rapport à ça, mais c'est un paradoxe statistique qui m'interroge. Pourquoi on fait tant sur la durée de vie totale et sur la qualité de cette durée de vie, on est moins bon que les autres? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, mais là qui est assez évidente, c'est que tout ça, c'est des moyennes. Si en termes de moyenne, on est plutôt bien placé, même si sur l'espérance de vie en bonne santé, on est mal placé, en termes d'inégalité, là, on n'est vraiment pas bon. On n'est vraiment pas bon, et ça, l'OMS le soulignait dès l'an 2000, c'est-à-dire que si en moyenne, on est très haut, en termes d'inégalité, on est un des pays riches où il y a le plus d'inégalités en termes d'état de santé et d'espérance de vie entre les catégories sociales. Alors, je vous rappelle juste un résultat bien connu, c'est qu'encore aujourd'hui en France, l'espérance de vie à 35 ans entre un cadre et un ouvrier, il y a 7 ans d'écart. Et cet écart-là, quand on le regarde dans le temps, quand on le regarde sur les 40 dernières années, il a eu plutôt tendance à s'accroître qu'à se réduire. C'est-à-dire que les inégalités concernant l'espérance de vie, continue à progresser en France entre les catégories sociales, même si évidemment, j'ai dit 7 ans, c'est pour les hommes. Il y a moins d'écart pour les femmes entre une femme ouvrière et une femme cadre supérieur, on est en gros un peu moins de 3 ans. Alors ça, c'est l'espérance de vie totale. Mais l'espérance de vie en bonne santé, il y a 10 ans d'écart entre les cadres supérieurs et les ouvriers. Et donc, c'est ce qu'on appelle la double peine, c'est ce que les économistes de la santé ont appelé la double peine des ouvriers en France. Non seulement ils vivent moins longtemps, mais en plus, leur qualité de vie, leur espérance de vie en bonne santé, et l'écart est encore plus grand avec les cadres supérieurs. Et là-dessus, on ne progresse pas. Les écarts demeurent au cours du temps, voire même se renforcent sur certains indices. Alors, sur ces inégalités, je peux prendre aussi deux exemples en matière de maladies qui sont vraiment des marqueurs sociaux. Par exemple, sur l'obésité, enfin, ce n'est pas une maladie, mais c'est évidemment quelque chose qui va. Le surpoids et l'obésité, c'est quelque chose. Alors là, c'est uniquement l'obésité qui va jouer sur la. Comment dire le fait de développer ou pas certaines maladies, comme par exemple le diabète. Une statistique là-dessus. Sur les classes de CM2, il y a 0,6% d'enfants obèses, des enfants de cadre obèses, avec 6% d'enfants ouvriers obèses. Un rapport de 1 à 10 sur l'obésité entre un enfant en CM2, entre un enfant d'ouvrier. Il y a 10 fois plus de chances qu'un enfant d'ouvrier soit obèse qu'un enfant de cadre. Ou deuxième exemple, alors là, bon, il y a des spécialistes dans la salle. En matière de dépression, En matière de dépression, le taux de dépression est deux fois supérieur dans les catégories défavorisées par rapport aux catégories favorisées. Donc c'est des exemples d'inégalité par rapport à la maladie. Je vous les ai donnés en termes d'espérance de vie, mais à travers ces deux exemples, qui sont assez connus, on voit bien que si en moyenne on a un bon système, on a un système qui en termes d'inégalité est quand même en difficulté. Et ça, c'est pas nouveau puisque l'OMS le soulignait déjà en 2000. Alors, autre faiblesse du système, c'est au niveau des remboursements, au niveau des prises en charge. Au niveau des taux de prise en charge, on est actuellement, la sécurité sociale, la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, on est en moyenne sur l'ensemble de la consommation de soins et de biens médicaux en France, la sécurité sociale prend en moyenne 77% à sa charge. 77% à la charge de la sécurité sociale, le reste étant à la charge des complémentaires santé, du reste à charge des ménages, et puis un petit peu de financement de l'État, mais c'est tout à fait, c'est 1%, c'est négligeable. Alors, Ce gros trois quarts pris en charge par la sécurité sociale, on constate que finalement, quand on raisonne sur les 20 ou 30 dernières années, ça évolue assez peu. On est toujours sur un engagement de la sécurité sociale à peu près aux trois quarts. Pourtant, ce n'est pas du tout l'impression qu'ont les gens. On vous parle de désengagement de la sécurité sociale. Quand on raisonne en termes de pourcentage, on ne constate pas ce désengagement. Mais ça cache deux choses. Ça cache, première chose, qu'on a une dépense de santé qui continue à progresser. Et donc 23% du double de dépenses, eh ben c'est toujours le double de dépenses. Donc même si en termes de pourcentage, on est toujours au même niveau, comme la dépense de santé progresse, ce qui reste à charge des complémentaires et des ménages est de plus en plus important, alors que le pouvoir d'achat ne progresse pas. Donc en termes de montant absolu, on constate sur les dernières années, par exemple, que ce qui reste à charge des complémentaires et des ménages eh bien, progresse deux fois plus vite que le pouvoir d'achat des ménages. Donc ce n'est pas un désengagement de la sécurité sociale en pourcentage, mais dans un morceau, dans un gâteau de dépenses qui est de plus en plus important, ce pourcentage il pèse de plus en plus sur le pouvoir d'achat. Et deuxième élément qui est caché par cette relative stabilité, c'est quand on regarde catégorie de soins par catégorie de soins la prise en charge. Au niveau de l'hôpital, la sécurité sociale, des soins hospitaliers, la sécurité sociale, c'est 90% de prise en charge. Au niveau des soins de ville, on est à 65-70%. Mais ce qu'il faut savoir, quand on raisonne hors ALD, hors affection de longue durée, la prise en charge des soins de ville par la sécurité sociale est aujourd'hui en dessous de 50%. Juste en dessous de 50%. Ça veut donc dire que sur les soins courants de ville, c'est-à-dire dentiste, frais de visite chez le dentiste, de visite chez le généraliste, de visite chez le spécialiste de ville, etc., eh bien la sécurité sociale est devenue maintenant minoritaire. Alors, et je ne vous parle même pas, évidemment, de ce que vous savez sur les frais dentaires globaux avec les prothèses, où on est à 30% de prise en charge par la sécurité sociale. Les audioprothèses, 9% de prise en charge par la sécurité sociale. Et évidemment, le pire, c'est l'optique, 4% de prise en charge par la sécurité sociale. Donc cette stabilité de 77% cache le fait que, d'une part, en termes de montant absolu par rapport au pouvoir d'achat, la prise en charge, ce qui reste à la charge des ménages et des complémentaires est de plus en plus important. Mais ça cache aussi le fait que le désengagement ou les difficultés se modulent de façon très différente selon les catégories de soins et de soins et de services de santé. Dit autrement, le gros danger qui est derrière ça, c'est que, et on le voit bien à travers les renoncements aux soins, que la régularité des soins soit de moins en moins justement assurée et que donc ça débouche sur des hospitalisations pour des aggravations de maladies. Et donc, on risque d'avoir un basculement de ces dépenses régulières vers des dépenses en urgence hospitalière. Et donc, ce qu'on va gagner d'un côté, peut-être sur le court terme, en termes de réduction de nombre de visites, on risque de le perdre dans 5 ou 10 ans au niveau des dépenses hospitalières. Alors, bon, je pourrais rajouter des choses, mais comme on a déjà fait une soirée là-dessus, sur la couverture maladie complémentaire, je ne vais pas l'évoquer, mais si... si les deux intervenants ou s'il y a des questions là-dessus, on pourra y revenir. En France, sur les couvertures complémentaires, aujourd'hui, globalement, il y a 94% de la population qui a une couverture complémentaire, mais ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. La qualité des contrats de complémentaires, c'est ça la vraie question. Donc le deuxième grand point que je voudrais souligner en introduction, c'était celui des inégalités. Inégalité à la fois en termes de résultats de santé et inégalité en termes justement de couverture maladie, d'assurance maladie obligatoire selon les soins, selon les personnes et selon la qualité de la couverture complémentaire. Troisième grande question et troisième faiblesse hein, du système français, c'est les disparités territoriales. C'est les disparités territoriales, les disparités entre régions, entre villes et entre régions riches et régions pauvres, entre zones rurales et zones urbaines, entre villes et campagnes. Ces disparités territoriales, c'est des disparités en termes de nombre de professionnels présents. Alors après, selon la spécialité sur laquelle on raisonne, selon le type de professionnel, les écarts peuvent être sensiblement différents. Mais c'est une question donc de nombre de professionnels disponibles, mais c'est aussi des questions de délai d'attente. Les délais d'attente peuvent être extrêmement différents d'un territoire à l'autre. Donc ça, c'est un petit peu la troisième faiblesse du système français, hein, c'est ces disparités territoriales entre notamment la qualité de l'offre, enfin la qualité, la quantité de l'offre existante, notamment en Île-de-France et sur PACA, et ce qu'on peut trouver dans d'autres régions, où pourtant, parfois, les besoins sont beaucoup plus importants, et je songe notamment au Nord-Pas-de-Calais. Et puis, peut-être une quatrième et dernière difficulté, c'est sur le problème des urgences dans les hôpitaux, l'engorgement des urgences, le basculement d'un certain nombre de patients, justement, de la médecine de ville vers les urgences pour différentes causes, des causes qui sont financières, des causes qui sont des questions d'horaires d'ouverture, des causes qui sont dues aussi à d'autres problématiques. Hein. Cet engorgement dans les urgences, alors là, statistiquement, on a du mal à la mesurer. De ce que j'ai vu, par exemple, le temps d'attente aux urgences est en très légère progression en France, mais pas autant que je l'aurais pensé. Quand on compare la situation 2012, je crois, par rapport à 2002, en fait, le temps d'attente aux urgences, il a dû augmenter qu'à peu près de 10%, pas plus. Donc dans les statistiques, on n'a pas l'impression, mais je pense qu'on y reviendra, on n'a pas vraiment l'impression que ça se soit détérioré. Pourtant, quand on écoute les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, et quand on écoute les discours dominants, on sent bien qu'il y a ce problème-là. Alors, les statistiques que j'ai citées hein, sont des statistiques nationales. Là aussi, peut-être que les disparités territoriales entre les hôpitaux, pour l'avoir testé, par exemple, il vaut mieux aller aux urgences à Montmorillon qu'à Poitiers. Vous êtes pris en charge beaucoup plus rapidement, en termes de temps. Hein, je raisonne juste sur le temps. Il y a un écart en termes de temps assez phénoménal. Hein. Donc alors peut-être que cette mesure nationale cache des disparités importantes. Alors, deux dernières choses qui sont quand même là des questions d'actualité pour l'avenir du système. Première chose, c'est sur le modèle médical français, sur la fameuse charte de la médecine libérale de 1927. Le modèle médical français, médecine de ville, reposant sur la liberté d'installation, la liberté de prescription, la tarification à l'acte, l'absence de tiers payants, un certain isolement des généralistes, aujourd'hui n'est pas remis en cause tel quel, même s'il y a eu des tentatives récentes du gouvernement d'essayer de jouer plutôt par l'incitation que par l'obligation sur certains de ces aspects. On peut se demander si là on n'est pas arrivé au bout d'une logique du système. Tant que le système pouvait être en croissance de 3 ou 4% par an, on pouvait continuer à progresser, à avoir du progrès social en termes de santé et en même temps à continuer sur ce modèle médical français. On peut s'interroger aujourd'hui sur est-ce qu'on n'est pas à un moment où il faut vraiment s'interroger sur ce modèle. Et puis la deuxième question d'actualité, c'est sur ce qu'on appelle chez les économistes de la santé le biais technologique. Le biais technologique, pour certains économistes de la santé, la moitié de la croissance des dépenses de santé actuelles serait imputable au progrès technologique en matière médicale, aussi bien du côté de la pharmacie que du côté des équipements médicaux. Ce progrès technologique et les choix de remboursement par rapport à ce progrès technologique posent problème. On peut se demander si on ne raisonne pas trop en matière simplement d'efficacité, donc de se dire dès qu'on rajoute un petit peu d'efficacité médicale, on va rembourser, même si c'est beaucoup plus cher. Et donc, s'il ne faudrait pas raisonner non pas simplement en termes d'efficacité, mais en termes, là encore, de rapport qualité-coût, en termes donc d'efficience. Dit autrement, est-ce qu'on ne surestime pas parfois l'intérêt, je dirais, à la fois en termes de santé et en termes d'économie, des nouveautés? Alors là aussi, je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Là aussi, j'attends à la fois des personnes qui sont à côté de moi, quel est leur point de vue par rapport à ça, mais aussi des professionnels de santé qui sont dans la salle. Cette course à la technologie, ce progrès technique permanent, est-ce que là aussi, il n'y a pas à s'interroger par rapport à ça ? Il y a des lobbies derrière, que ce soit le lobby pharmaceutique, que ce soit le lobby en matière d'équipement médical. Il y a des lobbies industriels qui travaillent derrière. Et est-ce que là aussi, il n'y a pas des choix à faire par rapport à cette puissance des lobbies industriels ? Donc voilà un petit peu mes interrogations. Les interrogations par rapport à la qualité du système actuel et surtout par rapport au futur du système actuel. Je pense qu'en effet, on a encore aujourd'hui un système qui est encore de qualité. On n'est peut-être plus en l'an 2000, mais globalement, à la vue des indicateurs, on est dans une très très honnête moyenne, voire même une moyenne haute par rapport aux pays riches. Mais en termes à la fois de financement et d'évolution dans le futur, on est peut-être arrivé au bout d'un modèle de développement du système sanitaire en France qui remonte, qui s'est développé convenablement depuis 1945 avec des hauts, des bas, des difficultés, des rationnements, des interventions successives et de plus en plus régulières des différents gouvernements. Mais jusqu'à présent, on a continué sur une logique qui était quand même, même si il y a eu des évolutions, qui était quand même sensiblement dans la continuité du modèle de santé qu'on avait choisi en 1945. Et je me demande si là, on n'arrive pas à un moment où une rupture est nécessaire, ce qui ne signifie pas une réduction des budgets, hein, ce qui signifie simplement d'aller voir peut-être dans d'autres modes de rémunération des médecins, d'aller voir dans d'autres choix, dans d'autres manières de choisir les nouvelles techniques existantes, etc. Y a d'autres pays qui, sans chercher systématiquement l'économie budgétaire, ont choisi de réorienter certains choix médicaux sur des critères peut-être un peu plus efficients. Voilà. Je vous remercie.
Tout d'abord, je remercie Christian Poupin et Roland Bouet de l'invitation qui m'a été faite pour donner au moins mon appréciation en qualité de syndicaliste sur la question comment maintenir une organisation sanitaire de qualité dans un contexte de baisse des budgets. Je ne suis pas un spécialiste, mais il se trouve que mes fonctions syndicales m'amènent à avoir peut-être une vision un petit peu globale de ces dispositifs et d'essayer de faire le joint entre les dispositions globales et puis ce qui se passe concrètement finalement pour tout un chacun, à la fois du côté des professionnels de soins et des usagers, donc qui sont amenés à faire appel au système de soins. Tout d'abord, on est dans un dispositif, comme le disait le précédent donc, intervenant, qui est le fruit d'une évolution. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est né ex abrupto, et ça a bougé. En premier lieu, déjà sur les bases du Conseil national de résistance, hein, qui a mis en place la sécurité sociale, sur un principe en disant finalement chacun pourra en bénéficier selon ses besoins, mais cotisera en fonction de ses moyens. Donc, partant du principe, mais finalement, face à la santé, on n'a pas forcément les moyens nécessaires pour se soigner. Donc, on va mutualiser ces fonds et ça va permettre à tout le monde de pouvoir accéder à des soins et, si possible, des soins de qualité. Et le système de santé français s'est construit autour de cela et a permis, à la fois pour le secteur public et privé, d'être sur finalement un exercice de la médecine et ce qu'il y a autour, en garantissant à la fois aux professionnels d'être rémunérés, qu'ils soient salariés ou libéraux, et en même temps donc aux usagers, aux malades, de pouvoir accéder à ces soins. Est-ce que ça doit perdurer comme ça? Parce que c'est un peu comme ça que la question revient de manière lancinante. On est passé d'une période de maîtrise des dépenses de santé, après un encadrement des dépenses de santé. Maintenant, on rentre dans une période où il faut faire baisser les dépenses de santé, le tout sur fond de trous de la sécurité sociale. Donc, il y a tout un langage, un tas de choses autour. Attention, tout ça est en danger. Est-ce que ça peut perdurer? Il faut responsabiliser les malades avec des campagnes de publicité en direction des patients. Hein, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Donc, parce qu'il y avait, soi-disant, une pression des malades pour se faire prescrire des antibiotiques. On a eu aussi un certain nombre de mesures. Le numerus clausus, disons, s'il y a moins de médecins, il y aura moins de demandes. Les gens demanderont moins de soins, donc on va faire baisser les dépenses de la sécurité sociale. On s'est dit, il faut tarir un petit peu et contenir tout ça, et finalement les gens, bon, ça n'a pas vraiment marché, parce que finalement quand on est malade, on est quand même malade, qu'il y ait un médecin ou qu'il y en ait 10, on cherche à avoir une réponse. Alors après, on a mis en place tout un tas de dispositifs sur le financement de la santé en encadrant de plus en plus les choses. Alors, et pour parler de l'hôpital, on a commencé, pour essayer de ne pas remonter trop loin, mais dans les années 70, on avait le prix de journée. Donc l'hôpital, quand il accueillait un malade, eh bien, on calculait un prix de journée, on disait que ça coûtait tant par jour, selon les affections, voilà, un régime de barème assez simple. Et donc, quand je venais une journée, ça rapportait tant à l'hôpital. Et ça, ça a été considéré comme un peu inflationniste, un peu trop grosso modo, pas assez affiné. Donc, il a fallu encadrer un petit peu mieux ça. Donc, on a dit, pour éviter les dérapages des dépenses de santé à l'hôpital, on va mettre en place ce qu'on appelle le budget global. Donc, on détermine un budget dévolu aux hôpitaux, donc qui est une émanation du budget de la sécurité sociale. La moitié des dépenses de l'assurance maladie, à peu près la moitié, ce sont des dépenses hospitalières, publiques et privées. Donc, pour contenir ça, on va attribuer un budget global aux établissements, et puis ils vont faire en sorte, avec ce budget global, de se débrouiller. Alors, tout ça était, finalement, ça pouvait tomber bien comme tomber mal. Donc, selon la gestion, l'organisation de l'hôpital, les hôpitaux qui s'en tiraient bien, certains s'en tiraient très bien, et puis d'autres qui n'y arrivaient pas, budgétairement. Donc, tout ça a été avec beaucoup d'imperfections. Donc, on a affiné, pour arriver à un système aujourd'hui de tarification à l'activité. C'est-à-dire que, bien, finalement, chaque acte rentre dans une nomenclature. Et puis on définit un certain nombre de tarifs, il doit y avoir 2100 tarifs à peu près, différents selon les situations qui sont définies. Et puis là, pour chaque acte, eh bien, ça déclenche un tarif et on rémunère en fonction de ce tarif. Vous allez me dire, là on tient enfin la solution, les hôpitaux vont pouvoir être rémunérés en fonction de leur activité, de ce qu'ils font. Ça peut permettre de contourner des inégalités, etc. Sauf que ce système-là n'a pas été fait complètement pour ça, en fait. C'est ce qu'on appelle un outil de régulation prix-volume. Pour revenir à l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, donc dans cet ONDAM, il y a une partie de cet ONDAM qui est consacrée au financement des hôpitaux, donc avec un taux d'évolution qui diffère, qui n'est pas forcément celui du taux d'évolution des dépenses d'assurance maladie en général. Donc, sur les 2,4 en moyenne auxquels était fait référence tout à l'heure, pour les hôpitaux, pour 2015, l'évolution sera de 2%. Donc là, et pour que l'hôpital rentre dans l'épure de ces 2%, eh bien, il y a un certain nombre de mécanismes de régulation. C'est certes un objectif, mais c'est un objectif contraint. Et pour être sûr qu'on ne va pas dépasser, qu'on ne va pas aller au-delà de ces 2%, eh bien, il y a des codes d'alerte. Donc, il y a un comité d'experts qui surveille l'évolution des dépenses. Et puis, s'il y a trop d'activité, va attirer l'attention du gouvernement qui devra prendre un certain nombre de mesures. Et parmi ces mesures, eh bien, on va jouer sur les tarifs. Donc, s'il y a trop d'activité, ça va nous faire passer au-dessus des 2% d'augmentation. Donc, eh bien, on va faire baisser les tarifs pour rester dans les purs. Et là, on voit que ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Ça devient beaucoup plus compliqué, pourquoi ? Bon, déjà, je vous passe sur comment sont déterminés les tarifs. Je ne suis pas sûr qu'on trouve 10 personnes en France qui sachent comment sont arrêtés les tarifs. Bon, enfin, ça tombe. Il y a des systèmes de cotation. Il faut embaucher, ça crée des postes, hein, au moins. Coter, donc, et puis il faut enregistrer, il faut passer beaucoup de temps pour remplir, enfin, peu importe, ça fait partie du film. Au-delà de savoir comment c'est défini, un directeur d'hôpital, si je prends le CHU de Poitiers, il y a, on vous est compte, hein, 5600 agents, une file active importante, etc. Le directeur de l'hôpital, quand il commence son année, il ne sait pas avec quels moyens, finalement, il va faire tourner son hôpital. Donc il est sûr d'environ 80% de ses moyens, et pour les 20% restants, c'est un peu au doigt mouillé, puisqu'il n'est pas sûr que les tarifs ne vont pas évoluer dans l'année, il n'est pas sûr de toucher, parce que sur les 2% qui vont être accordés par exemple là, en 2015, il y a un coefficient dit prudentiel de 0,5% qui est préempté et qui va rester au niveau régional, au niveau des agences régionales de santé. Donc, l'hôpital est à peu près sûr de 1,50% d'augmentation de son budget pour 2015. Donc déjà là, il sait que ça ne va pas faire la bauge, hein, il va lui en manquer, et il va prendre un certain nombre de mesures, j'y reviendrai, pour essayer de tenir dans les purs. Et quand il commence, y compris sur ces 1,50%, il est sûr en fait de 80% de son budget. Et le reste, ben, il verra au cours de l'année, et plutôt vers la fin, s'il aura bien les rallonges. Donc il va prendre un risque, mais il va prendre un risque minimum, parce que s'il se retrouve dans le rouge, s'il se retrouve en déficit, alors là, il y a d'autres mécanismes qui se mettent en place, les plans de retour à l'équilibre, etc., qui vont contraindre et qui vont amener un certain nombre de réductions de moyens encore à l'hôpital. Alors vous voyez bien, je ne vais pas être plus long dans la démonstration, mais vous voyez bien déjà, et là je vous en donne 1%, combien c'est compliqué. Donc de laisser croire à l'opinion publique, finalement, que par un coup de baguette magique, d'amélioration de la gestion, etc., on va réguler tout ça et, en deux temps, trois mouvements, est une vaste blague. En plus, un hôpital, c'est des machines, des murs, mais c'est avant toute chose une ressource humaine. 70% en moyenne, à peu près, hein, des dépenses d'un hôpital, ce sont des dépenses de personnel. Dépenses incompressibles. D'une année sur l'autre, finalement, on ne peut pas aussi facilement que ça jouer sur ces dépenses. Ou on ne devrait pas. Mais comme ça fait 70% que c'est important, les directions sont obligées de jouer sur cette part importante de la ressource humaine, dire ben, comment je vais pouvoir finalement réguler mon budget, ne pas me retrouver dans le rouge. Il y a des statuts, les médecins ont un statut, les personnels titulaires ont un statut, donc on ne peut pas les retirer comme ça. Donc on voit de plus en plus de recours à du personnel contractuel. Donc là, parce que bien finalement, c'est une variable d'ajustement. Si en fin d'année, j'ai pas, ça ne fait pas la bauge, je peux me séparer assez facilement et faire du cash donc sur une partie plus ou moins importante de personnel. Donc selon les établissements, on peut avoir un taux d'emploi contractuel important ou pas important. On peut avoir sur des établissements équivalents au CHU de Poitiers, je n'ai pas les chiffres sur le CHU de Poitiers, mais avec 400 ou 500 personnels contractuels, dont on peut se séparer très vite en cas de difficulté. Il y avait le CHU de Caen il y a 2 ans, est en cessation de paiement. Le directeur ne pouvait plus payer les fournisseurs, etc. Et au mois d'août, il s'est séparé immédiatement de 400 personnes, donc 400 contractuels, qu'il a été obligé de, parce qu'il n'avait plus les moyens de payer, donc pour boucler son budget. Donc on voit les réductions de budget, ce que ça entraîne. Donc ça joue sur les personnels, on met de la pression, on met en place des organisations les plus efficientes possibles, nous disent certains, ou les plus efficaces, c'est-à-dire comment on va réussir à faire tourner l'hôpital, qui grosso modo tourne 24 sur 24, 365 jours, je dis grosso modo parce que là aussi on organise de plus en plus les choses pour, il y a de plus en plus d'hôpitaux de semaine, des choses comme ça, des hôpitaux de jour, la chirurgie ambulatoire, où on essaye de faire en sorte que ça dure le moins possible, et puis comme ça on peut mieux organiser. Donc on voit, il y a un tas de mécanismes qui se mettent en place pour rentrer toujours dans cette question budgétaire. Et là, ça fait 10 minutes que je vous parle de budget. En aucune manière, je vous ai parlé ni de qualité de soins, ni d'espérance de vie, ni quoi que ce soit. Le matin, quand le directeur d'un hôpital se lève, il se dit comment je vais réussir, moi, à aligner mes chiffres pour que ça rentre dans les murs. Et il faut que tout ça rentre. Donc, c'est un choc terrible. Quand je dis c'est un choc terrible, on est en train de passer d'une médecine humaniste à l'hôpital à une médecine financière. Je ne sais pas si elle sera moins efficace, in fine. L'histoire nous le dira. On n'a aucune évaluation, finalement, là-dessus. Si ça se trouve, elle sera très efficace. Peut-être bien qu'on va faire monter les taux d'espérance, etc., de vie en bonne santé. Moi, j'ai un petit doute là-dessus, quand même, hein, de l'intérieur. Et finalement, je ne veux pas, de manière péremptoire, dire que ça va forcément baisser. Mais c'est un vrai choc. C'est un vrai choc pour les personnels qui, finalement... ont de plus en plus présents à tous les niveaux. Les personnels donc, de direction, les personnels administratifs, les personnels des services de soins, les personnels médicaux, de plus en plus présents à l'esprit de ces questions budgétaires qui, d'une manière ou d'une autre, aliènent une partie de la liberté de jugement, notamment pour le personnel médical. Un médecin, c'est au moins la conception que nous qu'on a de notre organisation syndicale, il faut absolument lui préserver son indépendance. Il faut que quand, dans l'entretien singulier qu'il a avec son patient, il puisse réfléchir en se disant, finalement, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre au regard de mes connaissances, des dispositions existantes, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre, finalement, pour amener une réponse à la maladie ou au problème que la personne qui vient me voir. Si je suis obligé d'intégrer le fait de dire, ben, moi, il faut que je réduise mon activité, etc., je vais forcément altérer mon... Et là, ma relation avec le patient change. Je ne sais pas si la qualité du soin va être entamée, mais indéniablement, la relation change. Le médecin le sent, mais bien souvent, le malade le sent aussi. Donc, on voit tout ça est en train de bouger. Pour les personnels, les modes d'organisation font que quand un hôpital est en difficulté et en déficit, assez souvent, une des premières mesures qu'il fait, qui permet de faire du cash flow, là encore, il va réduire les budgets de remplacement. C'est finalement une des mesures qui est le plus socialement acceptable. On ne supprime pas de postes visibles. On ne retire rien aux agents en place, aucun avantage ni rien, et on retire une part de budget. Sauf que quand il n'y a plus ces budgets de remplacement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas recruter des personnes pour remplacer quand les gens prennent leur congé ou quand ils sont eux-mêmes malades, etc. Et il faut prendre en interne, donc procéder à de l'auto-remplacement, trouver des volontaires pour venir remplacer, etc. Là, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué pour les organisations. Enfin, plus compliqué, ça désorganise. Comme en plus, on fonctionne de plus en plus à flux tendu pour éviter des déperditions, là encore, parce qu'il faut tenir le budget. Bien, quand on est à flux tendu, puis s'il manque quelqu'un, eh bien, là, c'est une désorganisation totale. Donc, on fait appel au volontariat, les gens reviennent. Ils reviennent d'autant plus facilement que... ils acceptent de revenir sur leur repos ou leur congé parce qu'ils disent, voilà, il y a des malades, je ne peux pas laisser l'équipe en bazar, donc je reviens. Sauf qu'on arrive dans des situations où ça génère beaucoup de fatigue chez les personnels soignants, ça génère une dette sociale importante. On est dans un certain nombre d'établissements avec des niveaux d'heures ou de jours supplémentaires donc, qui ont été faits et que les établissements n'ont pas les moyens ni de payer, ni de permettre à ce que les personnes récupèrent. CHU de Clermont-Ferrand, on est à environ l'équivalent de 400 emplois sur une année en heures supplémentaires, jours de RTT, etc., qui sont pris, mais qu'on ne peut pas faire, comme si 400 personnes étaient venues travailler à l'œil. Donc, on absorbe une partie de cette pression budgétaire juste en interne, et ce sont les agents qui, finalement, constituent une espèce de dette sociale qui est invisible, elle n'est pas comptabilisée. Chaque cadre a bien sûr son compteur d'heures pour chaque agent, mais ce n'est pas monétisé dans le budget. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre de mécanismes comme ça qui se mettent en œuvre, des modes d'organisation, on travaille en 12 heures, parce que ben, deux équipes de 12 heures, ça consomme moins que trois équipes qui travaillent en 8 heures. Voilà. On voit un certain nombre de mécanismes qui sont mis comme ça, mais à chaque fois, pour répondre à ces problèmes budgétaires. Un des axes, par exemple, il y a un projet de loi santé en cours d'élaboration. Un des axes présenté par la ministre, c'est dit il faut à l'hôpital public développer la chirurgie ambulatoire. La chirurgie ambulatoire présente un certain nombre d'avantages pour beaucoup de malades. Je rentre le matin, je ressors le soir, je suis un peu patraque, etc. Mais finalement, j'aime autant rentrer chez moi plutôt que de passer une nuit, deux nuits à l'hôpital. Voilà. Et ça, ça ne peut se faire que pour certaines affections, que si certaines conditions sont remplies. Il faut que, déjà quand je rentre, s'assurer à ce qu'il y ait quelqu'un à côté de moi en capacité d'exercer un minimum de surveillance, de disposer d'un téléphone en état de marche pour pouvoir appeler s'il y a un problème, etc. Enfin, il y a un certain nombre de précautions à prendre. Donc on voit déjà, ce n'est pas aussi évident que cela. Et puis, si j'habite à Poitiers, je viens en ambulatoire au CHU, ça va. Si j'habite à Montmorillon et je viens en ambulatoire à Poitiers, on voit que c'est déjà un petit peu plus compliqué, il y a un peu de distance. Donc, est-ce que j'ai bien un moyen de locomotion, etc. Enfin, selon les bassins de population, là aussi, on ne peut pas augmenter de manière mécanique. Sur des bassins de population avec beaucoup de personnes âgées, c'est beaucoup plus difficile à organiser. Déjà, les pathologies s'y prêtent quelquefois un peu moins. Et puis, l'environnement social et tout. Donc, on voit ces mécanismes-là. Mais le gros défaut qu'il y a dans cette volonté, c'est de dire il faut réaliser 450 millions d'économies. Donc là, on ne développe pas la chirurgie ambulatoire pour le mieux que ça apporterait à la population, mais pour dégager 450 millions d'économies. Je ne dis pas que la ministre a un mauvais état d'esprit, mais la contrainte budgétaire, elle est là, donc il faut aller chercher. Donc si on développe, eh bien, on va dégager 450 millions. Pourquoi on va dégager 450 millions ? Ou pourquoi on suppose pouvoir dégager 450 millions ? La réglementation fait que, c'est un décret de 1999, quand on crée un lit de chirurgie ambulatoire, on supprime trois lits de chirurgie conventionnelle. Et donc là, on fait des économies à due proportion au niveau des effectifs, etc. Voilà. Est-ce que ça va améliorer l'état de santé ? Je n'en sais rien. Est-ce que les gens seront moins bien traités pour autant ? Je n'en sais rien. Je n'ai pas la réponse. Mais si c'est l'objectif, il faut atteindre 50 à 60% des actes chirurgicaux en ambulatoire, il faut avancer à marche forcée, j'ai peur que l'objectif financier soit supérieur à l'appréciation. Et je ne sais pas si le médecin, le chirurgien, aura sa totale liberté, sa totale indépendance, quand il saura qu'il a un tel objectif quand même vers lequel il faut tendre. Donc, est-ce que la baisse des budgets va nous permettre de garder le même niveau de qualité de soins ? Je reste avec beaucoup d'interrogations pour ne pas dire plus. Ce que je constate, à la question qui était posée par exemple, finalement, parce que des réformes, on en voit tous les 3 à 4 ans, on a le droit à une bonne réforme à l'hôpital. Alors avant la réforme, on nous dit, mais il faut savoir accepter les réformes, réformez-vous. On n'a pas fini de comprendre la réforme dont on nous dit que c'est la DRDDR et que c'est celle qui va sauver l'hôpital public, qu'on nous explique que finalement, ce n'était pas la bonne et on va vous en trouver une mieux. Donc on a eu, si je remonte, ça a commencé en 90, hein, et 20, ensuite 96, les ordonnances Juppé, 2000, début de réforme du financement. 2004, c'était le plan hôpital 2007 Mattei. Ensuite, 2012, passage à la T2A à 100%. Et là, je vous en fais qu'une petite litanie. On pourrait doubler au moins ou tripler la mise sur toutes ces réformes. Entre 1990 et aujourd'hui, avec toutes ces réformes, la pression, est-ce que finalement je dispose d'un meilleur accès aux soins aujourd'hui qu'hier? Est-ce que les délais d'attente, si j'ai besoin d'un rendez-vous, j'ai besoin d'une consultation à l'hôpital, est-ce que j'obtiens ce rendez-vous plus rapidement aujourd'hui qu'hier? Est-ce que mon temps d'attente aux urgences est finalement plus court aujourd'hui qu'hier? Est-ce que les personnels, finalement, exercent dans de meilleures conditions aujourd'hui qu'hier? J'ai mon appréciation sur toutes ces questions. Et j'ai tendance à répondre non à chaque fois. Alors, ce n'est pas aussi uniforme que ça. Et le bilan, si au moins on fait un bilan un petit peu des choses, force est de constater que cette logique qui va à chaque fois en s'aggravant de contenir et d'en avoir une approche que financière et budgétaire sur la question de la santé et de l'hôpital en particulier, je ne sais pas où se trouvent les résultats. J'ai un petit peu de mal à trouver où sont les résultats. Donc, c'est un certain nombre de questions qui nous interrogent, qui interrogent les professionnels, qui interrogent les malades, sur la question des urgences, et puis après, j'arrêterai. Quand je faisais référence tout à l'heure en disant ben, le médecin ne va plus au domicile, les visites de nuit, c'est terminé, etc. Moralité, mon enfant est malade. Dans beaucoup de grandes villes, voilà, passé 18 heures, je trouve le numéro du médecin de garde, et dans beaucoup de grandes villes, ça me bascule immédiatement sur le 15. Centre 15, c'est une régulation, donc j'ai quelqu'un au téléphone, ah, bon, qu'est-ce qui vous arrive? Mon gamin, il a de la fièvre, alors bon, bah, donnez du Doliprane, oui, mais il n'a pas de la fièvre comme d'habitude, etc. Peut-être bien qu'on va me donner le renseignement qui va me rassurer, je vais pouvoir appliquer ce qu'on me dit, et puis tout va rentrer dans l'ordre. Peut-être bien que ça va m'inquiéter. Je ne vais peut-être pas être satisfait. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai d'autre ressource que de venir aux urgences. Quand j'ai fait ça une fois, la deuxième fois quand ça m'arrive, je n'appelle plus le 15. Je vais directement aux urgences. Il y a un certain nombre de personnes qui vont maintenant directement aux urgences parce que finalement j'ai pris le pli, comme il n'y a pas d'offre, ou je suppose qu'il n'y a pas d'offre, en dehors des urgences, je vais aux urgences. Ça devient un réflexe. Je ne porte pas un jugement, c'est une conséquence, c'est une des conséquences on a réalisé des économies, il y a moins d'actes au niveau libéral, sauf qu'aux urgences, bah on voit l'infirmier régulateur qui vient, il vous accueille, regardez, je vais voir un externe, un interne, un praticien hospitalier, je vais passer une radio, faire mes examens de sang, parce qu'on va prendre toutes les précautions, parce qu'on est dans une... J'exagère, je grossis un peu le trait, mais c'est un peu ça. Et peut-être que la simple consultation à 23 euros, majorée des frais de nuit, aurait su... Je ne sais pas, mais voilà. Il y a peut-être des choses à réinterroger, à regarder un petit peu, à évaluer sur ce qui a été mis en place, parce que ça a des impacts et des conséquences. Des services d'urgence, il y en a des merveilleux qui sont bien organisés, où ça roule. Et puis, il y a des urgences indigentes, centre hospitalier de Rion, c'est dégueulasse, minable. C'est un Algeco au milieu de la cour quand il y a trop d'affluence qui sert de salle d'attente. Enfin, un truc innommable au 21e siècle. Bon, voilà. Mais parce que ben, on n'a pas les moyens, on ferme les budgets. Rion, dans le Puy-de-Dôme. Oui, mais quand je vais aux urgences de Rion, sincèrement, c'est la cour des miracles. Ah, et quand je suis à Rion, je préfère venir aux urgences de Rion plutôt que d'aller de l'autre côté, parce que c'est de l'autre côté, les urgences de Clermont sont de l'autre côté de la ville, et ça me prend une heure à peu près, enfin un peu moins, trois quarts d'heure pour y aller. Donc, voilà les choses, voilà ce qui doit nous interroger sur cette approche purement comptable et financière de l'organisation de la médecine. Et je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure médecine. Est-ce qu'il faut ne rien changer? Non, il y a des choses à rationaliser, on a des améliorations à faire, les modes de prise en charge bougent. Mais que sous l'angle financier, je crois que ça introduit un certain nombre de biais qui ne permettent pas de garantir à nos concitoyens. Ou alors, il faut leur dire, eh bien, il faut accepter d'avoir un peu moins d'accès aux soins. Il faut accepter d'avoir un délai d'attente long pour avoir des consultations, mais ne pas laisser croire à nos concitoyens que finalement, on va baisser les moyens à l'hôpital, on va faire en sorte qu'il s'organise mieux parce qu'il est mal organisé, qu'il soit mieux géré parce que les directeurs savent pas gérer, et vous verrez, tout ira mieux. Ce n'est pas vrai. Si on retire des moyens à l'hôpital, on n'améliorera pas la qualité des soins. Si on supprime un ou deux postes dans tel service, on n'améliorera pas. Et aujourd'hui, dans un certain nombre d'endroits, du fait de ces restrictions, je dis très nettement qu'on entame la qualité de l'accueil, on entame la qualité de la prise en charge, et quelquefois on entame la qualité des soins. Et on mesurera peut-être ça avec un peu plus de prégnance plus tard.
Bonsoir, bonsoir à tous. Je remercie Roland Bouet et Christian Poupin de me donner la parole au nom du Parti Socialiste, puisque je représente ici le Parti Socialiste, on m'a dit le pouvoir en place, c'est bien beaucoup de choses pour moi. Ceci dit, j'ai entendu beaucoup de choses que je partage avec Gilles Kerr sur les points tout à fait techniques, évidemment. Je dirais qu'on partage aussi le souci du soin, parce que c'est vrai que le mouvement socialiste, le mouvement, je dirais, social-démocrate en Europe, l'édification de la protection sociale au cours des Trente Glorieuses, à l'après-guerre, c'est quand même quelque chose qui nous est cher, parce que ça constitue, je dirais, pour l'homme, le pouvoir d'être libre. Je veux dire, quelqu'un qui, avant-guerre, je dirais, ne pouvait pas se soigner, n'avait pas les moyens de soigner, comment se constituait-il une réserve? Il était obligé de se constituer une réserve par les solidarités familiales, mettre de l'argent de côté pour pouvoir, si le grand-père était malade, si la mère était malade, pouvoir subvenir à ses besoins. Et donc, il y avait, quelque part, une liberté en moins, une liberté fondamentale en moins, que la protection sociale qu'on a mise en place à partir de 1945, avec Pierre Laroque, avec le droit à la protection sociale pour tous, inscrit dans la Constitution, dans le préambule de la Constitution de 1946. C'est vraiment une conquête sociale considérable, une conquête aussi individuelle considérable, et je pense qu'il faut le mesurer. Et c'est vrai que la construction de cette protection sociale et sa croissance, la construction des hôpitaux, leur édification, maintenant on a eu un grand hôpital à Poitiers, c'est vrai, au fil du temps, il y avait l'Hôtel Dieu, Pasteur, et puis maintenant on a ce CHU, cette minéterie, avec Henri Laborie à côté, c'est quand même des dispositifs techniques, des dispositifs humains extrêmement importants, et qui gèrent des quantités de patients, des quantités de personnes extrêmement importantes, et qui font bénéficier, je dirais, toute la population de notre région, quand même de soins de haute qualité. Et ça, c'est quelque chose dont on doit être fier et qui constitue aussi le fait que l'individu a conquis des libertés parce qu'il est remboursé par la sécurité sociale quand il se soigne et qu'il n'a pas à se préoccuper véritablement de ça. Et ça, c'est évidemment notre souci à tous. Et cette solidarité-là, elle nous est chère et on espère qu'elle va perdurer dans le temps parce qu'il y a, c'est vrai, des mouvements contraires à cette solidarité, pas seulement des questions financières, mais aussi dans la société, des individus qui ont des comportements malheureusement de plus en plus individualistes, et on le voit avec l'exil fiscal par exemple, et qui veulent rompre quelque part la solidarité qui est l'un des ciments de notre République aussi. Sur les dépenses, bon, je pense qu'il est important, Gilles Kerr l'a fait, mais je le rappelle, en effet, les dépenses de l'État ne diminuent pas, au contraire, elles augmentent, alors qu'on vit dans une période, comme vous le savez, de croissance très faible. Donc, pour ce qui est des dépenses de santé, elles augmentent plus que les dépenses moyennes. 2,4% en 2014 pour l'ONDAM, 2,1% en 2015, c'est-à-dire globalement environ 3,5 milliards par an qui sont réinjectés dans ces dépenses publiques, puisqu'on a un budget d'environ 180 milliards pour l'assurance maladie. Donc c'est un budget très important pour l'État. À titre de comparaison, je crois que l'éducation nationale, si on ajoute l'enseignement supérieur, doit être à 80 000 milliards. Alors, il y a des chevauchements, puisque l'enseignement supérieur intervient aussi dans la santé pour ce qui concerne les PHPU. Donc, nous, on a un pays qui dépense aussi, qui a un taux de dépense pour la santé important, puisqu'on est, je crois, j'avais des statistiques 2011, l'OCDE, le troisième pays en termes de dépenses de santé par rapport au produit intérieur brut. Hein, on est devancé par les États-Unis, qui ont un modèle quand même très libéral et très particulier, qui est générateur de, des dépenses sans doute excessives. Et puis, on est devancé aussi par les Pays-Bas, donc, qui ont un autre modèle. Donc, c'est environ 12%, hein, ce qui est quand même aussi une dépense non négligeable et donc qu'il faut souligner. La répartition de cette dépense, je marche un peu sur les plateformes aussi de Gilles Kerr, hein, 76%, c'est vrai, pour la sécurité sociale, prise en charge donc collective, donc Gilles Kerr a bien détaillé tout cela. Une partie pour les mutuelles, 13%, et puis les patients, c'est 10% du total de ces dépenses sur les 12% que je viens de décrire. Donc on voit que la part des mutuelles est quelque part relativement modeste, elle compte, mais 13% dans le total, ce n'est pas extrêmement important. Et cependant, quand on observe les frais de gestion afférents à la sécurité sociale, pour la gestion de ces 76%, c'est environ 7,2 milliards d'euros. Et pour la gestion des 13% gérés par les mutuelles, les frais de gestion s'élèvent à 6,2 milliards. Donc on a finalement des frais de gestion qui sont assez proches. Je tiens ce chiffre d'une note du CAE, qui a été co-signée d'ailleurs par Jean Tirole, le nouveau prix Nobel d'économie, qui date d'avril 2014. Et donc là, on voit qu'en termes de frais de gestion, pour gérer les 13% des mutuelles, une part relativement équivalente quasiment à la sécurité sociale. Donc on peut s'interroger sur la manière dont on pourrait rembourser pour être peut-être plus efficace pour économiser dans ces frais de gestion. Parce que c'est vrai qu'à chaque remboursement, on a 70% de la part sécurité sociale, 30% de la part mutuelle, et tout ça, ça suppose des gestions de chacun des organismes, et donc des frais de gestion pour chacun des organismes, ce qui présente des coûts supplémentaires. Et donc j'en viens là, en effet, à l'organisation du système de remboursement, mais aussi à l'organisation du système de santé. Parce que ça a été souligné, on a réellement, je pense, dans la mutation qu'on vit, hein, un besoin de réorganiser notre système de santé. Il y a des réformes qui ont lieu à l'hôpital, on ne les approuve pas toutes, hein, même nous, hein, je dirais. Ces réformes, ça a été orienté très marché, donc ça, c'est des choses qui posent question, en effet. Est-ce que c'est le marché qui doit régner ou est-ce qu'il y a d'autres éléments, évidemment, qui doivent régner? Si on pense qu'on doit partager à la fois une gestion rigoureuse des deniers publics, bien évidemment, mais aussi la prise en compte des soins de la manière la plus efficace possible, la plus juste possible. On ne peut pas envisager qu'un soin soit donné en fonction du seul critère financier. Lorsqu'on soigne un cancer, on le soigne en premier, et le suivi du cancer doit normalement être à la hauteur, je dirais, le post-cancer doit être à la hauteur de ce qui est fait en traitement initial. Là, il faut que les tarifications, à mon avis, permettent cette garantie-là pour tous les patients. L'organisation du système de soins, c'est aussi la relation entre l'hôpital et la ville. L'exemple d'un enfant qu'on veut faire soigner un week-end ou un soir, c'est vraiment un exemple symptomatique. Il me semble qu'au début des années 2000, les médecins de garde existaient encore. Il y avait encore une médecine de garde qu'on pouvait solliciter et qui venait chez nous. Il me semble qu'il y a une loi, c'était obligatoire, c'était en 2004, il me semble que c'est la réforme d'Ouste-Blasi qui a mis en cause cette loi et qui a fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans une sorte de vide. Il y avait un médecin de garde, on l'appelait et on pouvait assister. Et là, on a véritablement un problème d'organisation du système de soins. Qui est cette cause, elle vient, en effet, à mon avis, de cette loi-là. Donc, ceci dit, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on réfléchisse ensemble, il faut que l'hôpital réfléchisse avec la médecine de ville pour trouver des moyens de sortir de cette difficulté. Alors, je sais que l'hôpital sur les urgences a organisé des lits, je sais qu'à Poitiers, ça existe, il y a des lits spécialisés pour des gens qui ont des soins de petites affections, mais on voit que c'est insuffisant et on peut pas réaliser et continuer comme ça. Il va falloir trouver des solutions pour qu'on n'ait pas des surcoûts. Parce qu'un accueil en urgence, je ne connais pas la tarification, mais je crois qu'elle est très élevée. Et elle est incomparablement plus élevée qu'une consultation, ne serait-ce qu'une consultation de nuit avec déplacement du médecin. Donc ça, c'est véritablement des points sur lesquels il faut agir. Il faut agir parce que non seulement c'est coûteux, mais en plus, ce n'est pas efficace pour le patient. Parce qu'il va aux urgences, il attend, et c'est totalement inadapté. Donc on a sans doute beaucoup de choses à repenser dans ce système de soins. À la fois, il me semble que les nouveaux médecins aussi ont des mentalités qui évoluent. Il y a des nouvelles générations de médecins qui ont la profession se féminise, entre autres, et donc il y a sans doute une approche de la médecine qui peut être aussi différente. Je parle de la médecine de ville et hospitalière, et donc peut-être une alliance un peu plus facile entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. Je vais vous parler quelques éléments sur les mesures qui ont été prises par le gouvernement ou qui ont été prises au cours du mandat, et pas seulement par le gouvernement. Il y a évidemment l'accord sur les mutuelles, alors qui n'est pas encore définitivement mis en œuvre, mais en tout cas la volonté d'élargir la possibilité pour tous les salariés, même les salariés des petites entreprises, de bénéficier d'une mutuelle. Hein, ça va avec l'ANI, hein, le fameux accord qui a eu lieu au début du mandat de François Hollande. C'est un point important parce qu'on sait que on a mis en place la CMU sous Lionel Jospin, donc qui permet la couverture maladie universelle. Il y a des gens qui ont des revenus qui leur permettent de se payer une mutuelle, et puis il y a toute une catégorie de gens qui n'ont pas le bénéfice de la CMU parce qu'ils ont des revenus trop élevés et qui malheureusement ne sont pas en mesure ou sont en mesure de se payer une mutuelle, mais de façon très... Ça pèse très lourdement sur leur budget, parce qu'une mutuelle, c'est une centaine d'euros rapidement et peut-être par personne. Enfin, je vais peut-être un peu loin, mais on est sur des tarifs de 70 euros facilement, et quand on gagne un peu plus que le SMIC, ça pèse extrêmement lourd dans les budgets. Donc, la réflexion qui vient, donc, c'est de permettre à un plus large public, et notamment les bénéficiaires de cette extension, ce sont les salariés des petites entreprises, des entreprises individuelles qui n'avaient pas cet accès, et ça nous paraît absolument essentiel. Les aides à la complémentaire santé, les bénéficiaires de l'aide à la complémentaire santé, donc en partir du 1er juillet 2015, bénéficieront de la suppression de la franchise et puis du tiers payant. Tiers payant qu'on souhaite aussi étendre à partir de 2017 à l'ensemble de la population lorsqu'on va voir son médecin traitant, puisque le tiers payant on en bénéficie chez le pharmacien, et l'idée c'est d'en faire bénéficier aussi tous les patients chez le médecin traitant. Il y a aussi une mesure qui a été très importante, c'est le fait d'étendre la CMU à 500 000 bénéficiaires, puisqu'on a augmenté le plafond de la CMU de revenus pour permettre à plus de personnes d'en bénéficier. Donc on va arriver à peu près à 5 millions de bénéficiaires de la CMU, et donc dans la recherche de servir la santé de manière universelle pour le plus grand nombre. Donc il y a aussi le projet de loi de santé qui a été évoqué, hein, à la fois prévenir, donc il se fonde sur trois axes, le projet présenté par Marisol Touraine, prévenir, faciliter et innover. Donc prévenir, ça va être tous les dispositifs de prévention, à la fois sur les bases nutritionnelles, pour les jeunes par rapport à l'alcool, et tous les différents dispositifs de prévention innovants qu'on peut mettre en œuvre. Faciliter, je vous ai cité le tiers payant, mais c'est tous les dispositifs de facilitation de l'accès aux soins, avec un numéro aussi dédié pour les urgences. Et puis innover, parce qu'il faut innover à la fois dans l'accès aux soins, dans les technologies, tout en tenant compte évidemment des problématiques que cela pose et qui ont été évoquées. Mais aussi, il faut innover dans la manière de prendre en charge les patients. Dans certains pays européens, on fait appel à des professionnels qui ne sont pas infirmiers ni médecins, mais qui sont un peu entre les deux. Et l'idée de mettre en œuvre un infirmier clinicien aussi, qui aurait un rôle qui pourrait prescrire un certain nombre de choses et qui pourrait diagnostiquer avec des compétences évidemment adaptées et un cursus adapté pour que cela puisse se faire. Donner plus de responsabilités aux sages-femmes, ça c'est une évolution qui continue. Les projets aussi de vaccination par les pharmaciens, donc il y a tout un tas de choses qui sont mises en œuvre. Les orthoptistes aussi, la notion d'orthoptiste, vous savez qu'il y a un grand problème d'accès aux soins ophtalmologiques en France, et il y a un professionnel de santé qui s'appelle l'orthoptiste, qui bénéficie de 5 ans d'études post-bac, hein, et qui a une compétence pour au moins évaluer l'œil et prescrire éventuellement des lunettes adaptées et les adapter aux personnes. Donc on a à la fois l'idée de mettre des professionnels de santé un peu en intermédiaire pour permettre aux ophtalmologistes d'avoir véritablement, par exemple pour ce qui est de l'ophtalmologie, de traiter véritablement les pathologies de l'œil et de faire ce pour ce quoi ils sont formés, et pas uniquement du soin de premier recours. C'est à la fois une disposition pour permettre aux patients de répondre à une problématique réelle, hein, et puis à la fois pour être mieux soigné. Ceci dit, il y a aussi sans doute à élargir la possibilité de consulter des ophtalmologistes. C'est vrai que la question de la santé, c'est une question qui est liée aussi à notre économie. Quand on voit qu'il y a des traitements qui ont un coût exorbitant et qu'aujourd'hui, on s'interroge. Hein, je veux dire, l'assurance maladie s'est interrogée sur le traitement relatif à l'hépatite C, qui coûtait entre 56 000 euros et 41 000 euros. Je crois qu'on a réussi à négocier et aboutir à un accord autour de 41 000 euros. Mais il est vrai qu'on arrive dans des problématiques qui se deviennent terribles. Et quand on voit qu'en Grèce, avec la crise qu'ils ont connue, avec la situation économique qu'ils ont connue, ils ont dû renoncer à certains soins, à certains types de traitements, eh bien, je ne souhaite pas que mon pays subisse le même type de sort. Donc c'est vrai que la santé, c'est quelque chose qui doit nous unir et qui doit également, à travers cela, produire de la solidarité. Il y a un point qui est aussi un peu inquiétant, c'est qu'il y a des gens qui se désaffilient finalement à la sécurité sociale, à la fois bon, certaines pratiques de médecins qui font le choix d'exercer hors secteur 2, hors secteur 1, ça arrive, mais aussi des assurés, tout simplement des assurés sociaux. Donc on a eu l'exil fiscal, et là on semble aller vers un exil social. Donc ce qui doit nous unir, je dirais, c'est à la fois de toujours se battre pour maintenir cette solidarité, cette unité, parce que les solidarités qui existaient avant 1945, elles perdurent sous les formes qu'on connaît aujourd'hui, et il faut réussir à les préserver. Et pour les préserver, il faut que chacun trouve sa place dans le système de protection sociale. Et ça, c'est un des objectifs communs qui doit nous réunir.
Merci aux trois intervenants. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre la parole à votre tour et d'interpeller, de compléter, etc.
Merci. Ce que j'ai retenu de ces exposés, c'est que d'un point de vue budgétaire, on est quand même dans des contraintes qui risquent de ne pas s'inverser du jour au lendemain, je crois. Le constat, c'est quand même aussi qu'on est dans un système qui date des années 60, très hospitalo-centré. Enfin, je pense qu'on peut difficilement dire le contraire. Alors, une réflexion m'est venue lorsque vous avez évoqué la situation dans les établissements de santé. Alors, vous avez parlé des établissements publics de santé. Avec la tarification à l'activité, dite T2A, et toutes les activités dans un établissement de santé ne sont pas soumises à cette tarification. Ce qui peut engendrer des inégalités en termes de ressources entre le public et le privé. Alors j'aurais aimé avoir votre sentiment, enfin si vous avez des informations plus précises à nous donner dans ce domaine. Quant à l'ambulatoire, en France, je crois que l'objectif affiché par les pouvoirs publics, c'est d'arriver à 50% de chirurgie ambulatoire. Alors il faut savoir qu'en ce qui concerne l'anesthésie, les interventions chirurgicales, les choses ont tellement évolué que beaucoup d'interventions peuvent être réalisées en ambulatoire à condition que l'organisation du service ou de l'établissement le permette. Il faut savoir quand même que dans les pays scandinaves, on est à 80% de chirurgie ambulatoire. Or les distances, si on parle de distance et de temps sur la route, sont quand même, je crois, assez considérables dans certains pays. Donc ce sont des réflexions, et puis j'aimerais avoir votre sentiment sur ces points-là. Alors évidemment, on peut toujours raisonner en termes de restrictions de moyens, de conditions qui ne permettent pas de soigner les gens correctement, mais ne peut-on pas raisonner en termes de recherche du meilleur rapport coût-efficacité, coût-qualité, etc., et présenter peut-être un peu ça de façon plus motivante, aussi bien vis-à-vis de la population que pour les professionnels. Enfin, je ne nie pas les difficultés, parce que, comme tout citoyen, j'ai eu à aller dans un service où 5 personnes étaient absentes et il y avait un seul remplaçant et c'était un peu la débandade et c'était pas la faute du personnel, c'était un problème d'organisation. Ça, j'en suis conscient. Hein, mais et puis juste, alors ça c'est peut-être plus anecdotique, mais les frais de mutuelle, les frais de gestion dans les mutuelles, vous avez parlé de 6%. Bon, ce qui est comment
6 milliards.
6 milliards. Oui. De, d'accord. Ah oui, j'ai pas compris.
Vous avez dit 6%.
Ouais. Et alors, et comparé à la sécurité sociale, mais est-ce que l'on inclut là-dedans les frais de gestion liés au fait que les mutuelles gèrent des établissements de santé, des cliniques chirurgicales, des EHPAD, etc., la mutualité. Donc je ne sais pas si ça couvre tout ça.
Vous voulez commencer à répondre ?
Peut-être deux, trois éléments. Sur la question des budgets, voilà, on est dans une dynamique et on en prend pour un moment comme ça. Je ne sais pas, je crois qu'il y a certaines choses qu'on pourrait interroger un petit peu. Exemple, sur la question des dépenses, on a un certain nombre d'établissements ou de services qui ont été construits sous la formule des partenariats publics-privés, qui présente un avantage, c'est qu'on boucle le projet en 2 ans, ça sort de terre, et ensuite on paye un loyer. Généralement, c'est 3 à 4 fois le prix du marché, ça revient. Et au bout de 30 ans, on va récupérer un outil dont on nous garantit bien sûr qu'il sera rendu en l'état, et dont on sait très bien qu'au moins pendant les 2 ou 3 des années précédentes, la fin du contrat, ça va partir à volo. Donc, ça, première chose. Donc, est-ce qu'on ne peut pas mettre un terme à ces PPP, racheter le contrat pour limiter les frais. Autre exemple, les établissements hospitaliers aujourd'hui ont des besoins de financement sur 2 secteurs particuliers. Ligne de trésorerie, investissement. La ligne de trésorerie, c'est que voilà, le CHU, tous les mois, il doit sortir 5 600 fiches de paye. Donc, quand arrive le 27 du mois où l'argent est versé, il faut que le 27, l'hôpital ait dans sa trésorerie l'argent pour verser. Il n'a pas forcément ses recettes qui sont arrivées. Donc, pendant 8, 10, 15 jours, il va avoir besoin d'une ligne de trésorerie de X millions, 20, 30 millions peut-être. Voilà. Qu'est-ce que fait le directeur ? Il fait la tournée des popotes, il va voir les banques de Poitiers, négocier des prêts, etc. Donc au prix du marché, sur du court terme, avec des prêts à 5-6%. On ne peut plus aujourd'hui, depuis 1974 je crois, les hôpitaux ne peuvent plus emprunter avant... Les hôpitaux empruntés à la sécurité sociale ne peuvent même plus, peuvent pas emprunter auprès de la CDC à des prêts à 0% ou à 0,5% juste pour les frais de gestion. Est-ce que là, on n'aurait pas une source d'économie ? Est-ce que c'est normal que la sécurité sociale finance des intérêts de banques privées au lieu de financer de la santé ? Là, c'est des mesures qui pourraient être prises immédiatement. On n'interroge pas, il y a un régime d'exonération de charges sociales dans ce pays, dès que le patronat éternue, hop, on allège. Et on nous dit à chaque fois, c'est indispensable pour l'emploi. Plus on allège, plus il y a de chômeurs. Bon, on pourrait quand même regarder un petit peu en quoi les allègements de charges, finalement, améliorent la situation de l'emploi. À chaque fois qu'on pratique un allègement de charges, il y a une compensation sur le budget de l'État, et cette compensation n'est pas intégrale. C'est-à-dire que, ben, y en a une partie en plus de ces allègements, mais c'est un manque à gagner pour la sécurité sociale. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas regarder de ce côté-là ? Voilà quelques exemples de choses qu'on pourrait regarder, à la fois du côté des dépenses et des recettes, qui, y compris à court terme, sur la base d'orientation, permettrait de lâcher un petit peu de lest, un petit peu de mou pour la chose. Sur le régime de la T2A, les activités, pour une même activité, le public et le privé est soumis à la T2A. Ce n'est pas la même T2A. Il y a eu pendant un temps la volonté d'une convergence pour avoir les mêmes tarifs, ce qui est une imbécilité, puisque une clinique privée n'a pas la même sujétion qu'un hôpital public. Un hôpital public est obligé d'accueillir tout le monde. Donc l'hôpital, au-delà du simple soin, a d'autres contraintes. Voilà, quand on a un CHU, ben, il doit assurer de l'enseignement, etc. Certes, il touche une surcote par rapport à ça, mais qui, bien souvent, ne fait pas la bouche. Donc, la convergence des deux a été abandonnée. C'est Roselyne Bachelot qui l'a abandonnée. C'est une très bonne chose que ce soit abandonné. Une très bonne chose. Maintenant, est-ce qu'on doit rester avec 100% de T2A comme c'est actuellement ? Nous pensons que c'est là aussi pas une bonne chose, parce qu'on a des activités qui sont de toute façon déficitaires. Et donc, la T2A ne permettra pas. On a besoin de réguler ça, d'avoir un certain nombre d'activités qui soient plutôt rémunérées au forfait plutôt qu'au régime de T2A. Donc là, il faut revoir ça, parce qu'on est en train de voir que ça ne génère pas autant d'économies que ça. Ça peut avoir une tendance même paradoxale, un peu inflationniste. C'est-à-dire on va sélectionner les activités les plus rémunératrices pour assurer le budget. Donc on ne fait pas la réponse en fonction des besoins de la population, mais en fonction des besoins budgétaires. Donc on voit que ce n'est pas aussi vertueux que ce qu'on voudrait nous présenter. Bon, le rapport coût-efficacité, c'est la tarte à la crème. Alors je veux dire ça, alors là, on en bouffe, le rapport, l'efficience, j'exècre ce mot, j'en ai rien de bon de ce mot. L'efficience. Non, mais c'est pareil, tout ça, alors là... C'est un peu comme la météo. On décrit beaucoup mieux la météo de la veille que celle du lendemain. Donc là, ça, il faut réorganiser. Mais ça a été réorganisé, l'hôpital. On l'a réorganisé depuis 90, je vous assure. Tous les ans, on réorganise. S'il y a un secteur qui a été réorganisé, je ne sais pas comment on peut faire mieux. Est-ce que c'est flexible ? Il n'y a pas plus flexible. Les gens viennent, on a des établissements qui fonctionnent. Les agents attendent le soir pour savoir s'il faut qu'ils viennent travailler le lendemain. C'est pas belle la vie. Et ils arrivent le matin et on leur dit à 9h du matin, on n'a plus besoin de vous, vous rentrez chez vous. Il n'y a pas plus flexible. Ça marche mieux ? Non. Plus on déréglemente, plus on flexibilise, plus on creuse le trou. Parce que c'est la course à l'échalote. Alors que si on est justement dans un univers qui lui est cadré, eh bien là on va mieux maîtriser ses coûts. Donc le coût-efficacité, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut qu'on soit sur une logique de résultat au niveau de la médecine ? Il faut demander aux patients. Il faut demander aux soignants. Attention, parce qu'on est, là aussi, si on gratte un petit peu, hein, la judiciarisation de la médecine, etc., ça génère beaucoup de surcoûts. Voilà, les primes d'assurance, notamment sur certaines spécialités. Hein. Et là, qui paye ? Le médecin, il a dit, moi, je ne veux pas payer. Donc, deux choses l'une. Soit on m'augmente, soit on me le prend en charge. Si on ne le prend pas en charge, j'arrête de bosser. Parce que je travaille pour des clopinettes. Qui paye ? La sécu ? L'usager ? Donc, voilà. Il y a des marottes comme ça qui peuvent paraître, de prime abord, être la meilleure des choses. Bon. Une régulation... médical, nous y croyons beaucoup plus. Or, on a abandonné cela, y compris avec la loi HPST, on a dit on va remettre un peu les médecins au cœur des choses. Voilà. Là encore, on nous dit on va remettre les médecins au cœur des choses. Oui, on les met au cœur de la gestion, pas au cœur de la régulation médicale. On ne gère aucun hôpital et géré en fonction de la régulation médicale. Où on interroge les médecins pour dire, voilà, docteur Machepro, qu'est-ce que vous pensez de... Non. On ne lui dit pas qu'est-ce que vous pensez, comment on organise au mieux pour une meilleure efficacité du soin. On lui dit, voilà la contrainte budgétaire, organisez-vous par rapport à ça. Tant que ce sera comme ça, ce sera le bordel dans nos hôpitaux, on va pouvoir réorganiser, on ne pourra pas croiser les organisations médicales et non médicales, c'est un des nœuds de la désorganisation. Voilà, et on sera comme avec l'huile et le vinaigre, on aura beau l'agiter, ça va faire une émulsion et au bout d'un moment, l'huile sera au-dessus du vinaigre.
Est-ce qu'il y a d'autres...
Sur l'ambulatoire, c'est tout à fait dans les orientations qui ont été définies. Hein. On pense que c'est quand même quelque chose qui peut, d'une part, générer des économies, mais aussi du confort pour le patient. Hein. Il y a des interventions qui, il y a peut-être 20 ou 30 ans, demandaient 8 jours d'hospitalisation et qui aujourd'hui peuvent se faire dans des conditions de sécurité optimales de façon en une journée, quoi. Hein. Avec évidemment des médicaments. médicaments moins traumatiques, des outils aussi chirurgicaux totalement différents. Donc ça, c'est vraiment une voie qu'il faut explorer. Je crois qu'il y a, sur le rôle des patients aussi, quelque part, ça a changé. Il y a une démarche nouvelle des patients. Les patients, d'une part, sont plus acteurs de leur pathologie, sont plus acteurs de leur santé, hein, et avec le numérique, avec aussi la citoyenneté qui s'est développée. Je suis désolé, j'ai plus de voix. Je pense qu'il y a le rôle des patients, mais il y a aussi, d'une façon plus organisée, le fait que les usagers, maintenant, sont représentés au conseil d'administration des hôpitaux, sont représentés aussi au sein de l'ARS. Alors, je crois qu'il y a un comité des usagers, la terminologie n'est peut-être pas exacte, mais en tout cas, il y a le fait que les usagers sont acteurs, et ça, c'est un élément nouveau. C'est un élément aussi qui démontre qu'il y a une mutation dans notre protection sociale, qui était assise sur les syndicats. Il faut jusqu'en 1995, d'ailleurs, présider la CNAM, hein, et aujourd'hui, la préside plus. Et en plus, il y a eu la loi de 1995, toute cette implication de l'État qui est supérieure. Et donc, on voit qu'on est passé d'une santé qui était finalement liée à un statut professionnel, une cotisation, avec l'arrivée de la CSG et tout ça. On voit que c'est une santé qui s'universalise. Et la CMU en est aussi une des dimensions, quoi. Et donc ça, c'est un élément qui me paraît important. Et moi, je pense qu'il faut que les usagers soient de plus en plus acteurs, hein, et les patients aussi, les usagers dans le système de santé et les patients par rapport à leur propre maladie. Donc, sur les 6 milliards de gestion, peut-être que Gilles Kerr a des éléments de précision, mais moi, je peux donner la source, hein, et la source et la sous-source, mais je pense que ça s'explique par le fait que, finalement, la sécurité sociale gère autant de dossiers quasiment que la mutuelle. Parce qu'à chaque fois que vous allez chez le médecin, vous êtes remboursé de la part sécurité sociale, 70%, et puis 30% de la mutuelle. Donc, le dossier, la mutuelle est amené à gérer ces 30%. Et puis il y a des frais aussi de marketing, des frais de promotion qui sont générés par la mutuelle, qui génèrent un surcoût. La réflexion aussi sur les mutuelles, vous l'avez peut-être déjà eue, hein, mais est-ce qu'on ne serait pas en mesure d'imposer aux mutuelles le fait de proposer des contrats un peu standardisés, quoi, l'État, quoi, hein, le gouvernement, les organismes de sécurité sociale, le collectif, impose aux mutuelles de proposer une offre standardisée avec un panier de soins standardisé. Ça, c'est une question aussi pour que, d'une part, les gens puissent plus facilement aussi comparer, s'il y a lieu de comparer d'ailleurs, mais en tout cas, qu'il puisse y avoir une gestion un peu plus stricte de la manière dont on rembourse et pas des offres complètement divergentes, illisibles d'une part, et en outre, qui peuvent être aussi piégeuses quelque part et qui ne sont pas forcément un optimum pour notre système de santé et sa gestion.
Oui, je voudrais revenir sur la notion d'efficience. Pour moi, la question de l'efficience, ce n'est pas du tout une question de réorganisation du travail. C'était une question de quel est l'intérêt des nouveaux traitements, des nouvelles techniques médicales qui sont introduites dans le système, du point de vue médicamenteux et du point de vue des examens. Le gain en termes d'efficacité par rapport au coût supplémentaire que ça représente, c'est là la question. Et à mon avis, c'est là que les lobbies jouent le plus. Ce n'était pas du tout dans mon esprit le coût-efficacité du personnel de l'hôpital. Je crois qu'en effet, on a plus désorganisé les choses que réorganisé les choses sur certains points. Donc c'était vraiment là-dessus. C'était sur cet aspect-là, je crois qu'il y a des lobbies extrêmement puissants de l'industrie liée à la santé, et qu'aujourd'hui, justement, on ne fait pas de choix là-dessus. Du moment qu'il y a un nouveau traitement qui, et en plus les études qui sont menées, parfois on retrouve les mêmes lobbies derrière les études qui ont été menées, mais les choix qui sont faits, du moment qu'il y a un tout petit peu plus sur le papier d'efficacité, on va dire on prend, alors que du point de vue économique, c'est assez désastreux. Bon, je ferme la parenthèse. Sur les frais de gestion, l'histoire des 6 milliards... 6 milliards d'euros de frais de gestion des complémentaires santé, il faut savoir que le déficit de l'assurance maladie aujourd'hui, c'est 6 milliards. C'est exactement la même somme. Ce qu'on dépense en termes de frais de gestion des complémentaires de santé, c'est exactement le déficit de l'assurance maladie aujourd'hui. En termes de pourcentage, la sécurité sociale, les frais de gestion tournent à 6%. Dans une complémentaire santé, les frais de gestion tournent entre 15 et 25%. 15% quand c'est une mutuelle, 25% quand c'est une assurance santé. Il n'y a pas photo en termes de frais de gestion. Et donc, je ne répète pas ce que j'avais dit la dernière fois sur l'intérêt du système d'Alsace-Moselle d'avoir une complémentaire santé qui est intégrée à la sécurité sociale. Et c'est un système qui, là, est particulièrement efficient et ce n'est pas le choix qu'a fait le gouvernement. Autre exemple, quand on regarde les gens qui sont à la CMUC, donc la CMU complémentaire, ils ont le choix de l'organisme de la CMUC. Et je crois que c'est 80% des personnes qui choisissent la CMU-C à la sécurité sociale. C'est donc qu'ils estiment que c'est d'une part mieux géré, que c'est moins coûteux d'avoir la CMU-C, enfin moins coûteux, que c'est plus facile d'avoir la CMU-C à la sécurité sociale parce que ça permet d'avoir un seul remboursement plutôt que de lien avec deux organismes. Et donc là aussi, on aurait pu imaginer une généralisation de la complémentaire santé en offrant la possibilité aux Français de dire « moi, ma complémentaire santé, je la prends à la sécurité sociale ». Donc ça, c'est des choses qui n'ont pas été débattues. Et donc, c'est très bien la généralisation des complémentaires, mais sous la forme que ça prend aujourd'hui, à mon avis, c'est problématique. Et puis la dernière chose que je voudrais évoquer, c'est en lien avec tous les problèmes qu'il y a, c'est que ce n'est pas un problème de dépenses de santé qu'on a, c'est un problème de croissance économique, hein, faut être clair. C'est-à-dire que quand la croissance économique était encore même de 2-2,5% par an, 3-4% de dépenses de santé, ça tient. Hein. Il y a une priorité qui est normale. Hein. Ce qu'on appelle, la santé est un bien supérieur, c'est-à-dire plus on est riche, plus on veut consacrer un poids de son pouvoir d'achat à la santé, c'est tout à fait logique. Quand vous avez une croissance de 2-2,5% par an, 3-4% de croissance des dépenses de santé, c'est tout à fait tenable. À partir du moment où la croissance économique est nulle, ça ne tient plus et c'est pour ça qu'on est obligé de restreindre les choses. Et donc, je dirais que c'est une logique de politique économique globale qui pose problème. Et notamment dans la situation actuelle, bon, en tant que keynésien, c'est ce qu'on appelle un écart déflationniste. Même s'il n'y a pas de réduction des budgets, on a absolument besoin de continuer sur la dépense publique. Et en ce moment, on est en train de creuser sa tombe, hein, carrément. Donc ce n'est pas que sur la santé, c'est la logique de la politique économique globale qui actuellement pose problème. Et la santé n'est qu'un élément là-dessus. Voilà ce que je voulais dire. Y a une chose que j'avais oubliée dans ma présentation et qui n'a pas été évoquée ensuite, donc je voudrais aussi évoquer la question, hein, c'est la question de la prévention. C'est la faiblesse de la prévention en France par rapport au curatif. Quand on regarde l'ensemble des dépenses de santé, les dépenses de prévention ne représentent que 2,5% du total. Et comme par hasard, quand justement on essaye de réduire les budgets, sur quoi on va réduire les budgets ? Sur la prévention. Notamment, moi ce qui m'a choqué, c'est la suppression du programme de suivi dentaire, hein, MT dents pour les enfants et les adolescents, suivi gratuit qui a été abandonné parce qu'on va faire une économie, je ne sais plus, je crois que c'est 80 millions d'euros, un truc comme ça. Mais c'est vrai que sur le court terme, c'est 80 millions d'euros de moins. C'est un gain. Mais dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, on va le payer, ça. Donc là aussi, le choix curatif par rapport à la prévention, en termes justement d'efficacité coût, ça dépend si on le calcule sur le court terme, sur l'immédiat, sur l'année qui vient, ou si on le calcule sur 5 à 10 ans. Voilà.
Oui. Je voudrais rebondir. Oui, donc par rapport à ce que moi je suis aussi d'accord sur pour que la prise en charge des soins soit à 100% par la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'il y ait disparition des assurances privées et des fausses assurances qui étaient auparavant des mutuelles. Mais sur la question de la santé, je trouve qu'il y a une évolution qui était extrêmement importante au niveau de l'Union européenne et au niveau mondial, c'était quand même d'affirmer que la santé était une marchandise comme une autre. Il y a quand même un certain nombre de critères qui ont été mis en place pour dire que enfin, tout ce qu'on voit sur les partenariats privés, sur les publics-privés, pardon, sur la concurrence entre les hôpitaux, sur les méthodes de management importées directement des entreprises privées, c'est quand même la politique néolibérale qui a appliqué de la même manière brutale, quel que soit le secteur, donc la santé en particulier. Mais en fait, ce qui est quand même un peu étonnant dès qu'on prend un peu de recul, c'est à quel point c'est pas particulier, quoi. Et donc par rapport à ça, moi je ne crois pas, comme M. Grégoire, que l'adversaire soit l'individualisme. L'adversaire, il me semble que c'est évidemment que l'ennemi est la finance, comme disait je ne sais plus qui, et aussi que c'est le néolibéralisme. Et il y a un exemple, c'est ce qui s'est passé en Grèce, parce que, oui, c'est vrai que c'était la gloire de l'État-providence, d'une conception de la social-démocratie, de mettre en place la sécurité sociale. Mais en Grèce, ceux qui ont démantelé le système de santé, c'est la droite et le PASOK, le Parti Socialiste, qui est un fleuron de l'international socialiste, qui est maintenant à peu près liquidé dans les intentions de vote. Et en effet, en Grèce, la situation du point de vue sanitaire est désastreuse et va en empirant. Donc par rapport à ça, il y a une responsabilité politique de tous les gouvernements de l'Union européenne et particulièrement des gouvernements dirigeants, c'est-à-dire la France, l'Allemagne. Pas seulement l'Allemagne, parce qu'en général on dit que c'est de la faute aux Allemands, mais c'est aussi de la faute au capitalisme français. Sur la question, alors un point petit à côté, c'est celle de l'extension du tiers payant proposée par le gouvernement. Les médecins libéraux, enfin moi je suis installé en ville, je participe pas à ces mouvements de médecins libéraux, mais ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec la mise en place du tiers payant, parce qu'ils disent que la sécurité sociale n'a pas les moyens de la mettre en place, que ça va être le bordel et qu'ils ne seront pas payés. Que donc ils vont faire une grève, comme ça avait déjà été le cas entre Noël et le Nouvel An, donc genre opération Megève. Bon. Mais l'absence de confiance qu'il peut y avoir entre les médecins installés et puis la sécurité sociale, c'est quand même un problème important. Et pour changer les trucs, il vaut mieux arriver à faire une alliance, ce qui me paraît un peu difficile actuellement. Mais en effet, je crois que la question des nouvelles générations de médecins fait que les questions se posent un peu différemment, en bien et en mal, parce que c'est quand même que les jeunes médecins ne veulent pas aller à la campagne, mais ils veulent une pratique collective et ils sont plutôt favorables à un tiers payant et à une sorte de salariat. Donc, mais c'est assez compliqué, mais c'est manifestement extrêmement différent de ce qui avait été dit en 1927.
Puisque j'ai été un peu interpellé sur l'individualisme, je veux dire que justement la sécurité sociale à partir de 45 a justement permis l'épanouissement de l'individu, a permis justement à l'individu de se libérer, et c'est une grande conquête. J'ai pas dit que l'individu, mais ce qu'on constate, moi j'ai assisté à des réunions aussi sur des mutuelles, des gens qui parlaient de ça et des économistes de la santé, et, ben, certains carrément disaient. Alors ça m'a vraiment surpris, mais j'ai des personnes autorisées qui disaient, moi je paye cher ma mutuelle, mais je ne comprends pas pourquoi je la paye cher, parce que je ne suis jamais malade. Il était jeune. Donc voilà. Donc moi j'ai le sentiment...
Vous n'avez pas compris le sens du mot mutuelle.
Oui, c'était ça, exactement. Donc moi j'ai quand même le sentiment qu'il y a quand même, dans notre société, quand on voit les exils fiscaux, la médiatisation sur ces questions-là, il y a quand même quelque chose qui... Bon, j'espère pas, évidemment, je souhaite tout le contraire, mais c'est bien parce que je souhaite préserver le système de protection sociale que je mets en garde par rapport à ces mouvements-là, et je pense qu'il faut rappeler ces valeurs de solidarité, qu'il faut faire une preuve d'éducation, même peut-être auprès des jeunes, sur ce qu'on a bâti ensemble et sur ce que ça nous apporte collectivement. Ça me paraît être essentiel. Sur la Grèce, bon, évidemment, hein, et on sait ce qui a eu lieu. La France a aussi aidé la Grèce, hein, même s'il y a les programmes qu'on connaît. La Grèce n'aurait sans doute pas dû rentrer dans l'euro, hein, c'est aussi un constat, mais on va arriver dans des débats généraux, d'économie générale, et on sort un peu du sujet. C'est sûr que la question de la croissance économique et de la façon de générer de la croissance économique pour notre pays, c'est déterminant pour que notre système de santé puisse perdurer, et je partage avec Gilles Kerr ce point de vue. Sur les lobbies, on a évoqué les lobbies. C'est vrai que les lobbies pharmaceutiques, les lobbies technologiques impactent la santé, hein, ça c'est certain. On le voit sur certains médicaments, sur certains choix de médicaments, d'ailleurs parfois qui sont choisis aux États-Unis, qui sont refusés en France ou en Europe, quoi. Et inversement, donc il y a des éléments de lobby, et on sait que ces lobbies pharmaceutiques sont présents à tous les étages du ministère de la Santé, et malheureusement à tous les étages parfois de la Sécurité sociale. Et c'est les médecins également, oui, non, mais ils exercent à plein de niveaux leur emprise pour justement manger à ce gâteau, qui pèse quand même 225 milliards globalement, 185 milliards mutualisés au niveau de la Sécurité sociale. Il y a d'énormes masses financières, d'énormes enjeux, et évidemment, ces sociétés ne sont pas philanthropiques, et elles voient qu'il y a de l'argent à récupérer, et elles se positionnent de cette manière-là. Donc, c'est vrai que, là encore, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut que l'usager s'empare du système de protection sociale, et devienne lui aussi quelque part un lobby efficace pour défendre ses intérêts en tant qu'usager, parce que c'est lui qui paye les cotisations sociales, c'est nous tous qui les payons, ces cotisations sociales. Donc si cet argent que nous mettons collectivement ensemble pour se soigner est utilisé pour servir des intérêts financiers au détriment de notre santé, eh ben, il faut qu'on soit véritablement acteur de cette santé. Et c'est comme ça qu'on réussira à lever le lobby. Au niveau européen, il y a beaucoup de lobbies, et il y a beaucoup de lobbies qui ont beaucoup de moyens. Et puis, il y a des lobbies citoyens. Et ces lobbies citoyens, bon, ben, vous les connaissez, ceux qui luttent pour la transparence financière, ceux qui luttent contre les paradis fiscaux, il y a Greenpeace, il y a tout un tas de lobbies qui cherchent à valoriser le citoyen, et puis il y en a d'autres qui cherchent à valoriser l'industrie. Et malheureusement, c'est vrai que ceux qui valorisent l'industrie, ceux qui valorisent des intérêts privés, financiers, sont parfois plus puissants parce qu'ils mobilisent des moyens, ils ont tout un tas de personnel. Et nous, citoyens, ben, je pense qu'il faut qu'on s'implique dans plein d'associations, justement, pour défendre ce à quoi on croit et ce qui fait qu'on est, on est aussi là. Et les partenariats privés, c'est pareil. Je pense que ça relève aussi un peu, certes, d'une impécuniosité peut-être des pouvoirs publics, mais aussi d'un lobby idéologique vendant un peu ce système. Parce qu'au bout du compte, la France a souvent les moyens, finalement, d'emprunter et d'emprunter pour faire des investissements dans des infrastructures hospitalières. Je ne pense pas que ça soit quelque chose qui nous soit refusé par les banques.
Peut-être deux, trois éléments. Si, il y a des banques qui refusent de prêter aux hôpitaux. Ouais. Donc, on est aujourd'hui dans des situations où des hôpitaux ne trouvent pas auprès de banques des accords de prêt pour leur ligne de trésorerie. Non. Voilà, ça, première chose. Sur les PPP... Sur les lignes de trésorerie, c'est pour payer la paye des gens.
Ah, d'accord, okay.
C'est ça. Donc là, ce n'est pas sur les investissements, d'accord. Sur les lignes de trésorerie. Sur la question de la représentation des usagers, implication des usagers, la Sécu, je pense qu'il faut être peut-être un petit peu plus précis. Tout à l'heure, il était fait référence, la sécurité sociale, avant, c'était les syndicats. La sécurité sociale, c'est la gestion du salaire différé sur la cotisation sociale payée par les salariés. Et ce n'est pas un service de l'État. 96, ordonnance juge de paix, on commence l'étatisation de la sécurité sociale. On dit, ben finalement, ce n'est plus la sécurité sociale qui va déterminer ses affaires, c'est le Parlement, en votant l'ONDAM, c'est un virage fondamental. Donc on dit, c'est-à-dire qu'on avait une représentation des usagers au sein de la sécurité sociale par leurs organisations syndicales notamment. Je rappelle qu'en 83, il y avait l'élection des représentants des conseils d'administration, donc par les usagers, comme on dit. Aujourd'hui, on nous dit que les usagers sont représentés notamment dans les conseils d'administration, enfin les conseils de surveillance. Je suis sûr qu'ici, dans cette salle, vous connaissez tous votre représentant dans votre hôpital. Vous connaissez tous votre représentant dans votre hôpital, j'en suis persuadé. Donc, est-ce qu'il y a des représentants des usagers? Moi, je ne sais pas. Je ne mets pas en cause les personnes qui sont des personnes de bonne volonté. Ce que je vois, c'est que souvent, ils sont plus désignés comme des PQ, c'est-à-dire qu'on cherche à avoir une fois de plus dans un conseil de surveillance et une caution pour faire voter notamment un certain nombre de mesures. C'est-à-dire que la liberté d'appréciation de l'usager dans le conseil de surveillance, elle mériterait d'être un peu interrogée. Je dis ça juste comme ça au passage. Parce que quelquefois, ou alors je ne comprends pas, ou alors ce ne doit pas être les mêmes usagers, ou ce sont des usagers qui n'ont pas besoin. Parce que, je provoque un petit peu la chose, mais une chose est sûre, c'est que vous interrogez toute la population poitevine, et vous leur demandez quel est leur représentant dans leur hôpital, ils ne savent déjà même pas qu'il y a un représentant des usagers, d'accord ? Bon, donc... Je ne remets pas en cause, je vous dis, là encore, la bonne volonté, et c'est parmi des associations, etc., etc. Mais enfin, la représentation des usagers, la meilleure représentation des usagers que l'on avait quand même, me semble-t-il, c'était la représentation par les élus. Parce que s'il n'y a pas mieux comme représentant des usagers que les élus, il faut qu'on me dise à quoi servent les élus. Or, on a retiré les élus, ou alors les élus n'ont pas voulu s'impliquer. Quand on a eu la représentation dans les conseils d'administration des hôpitaux, des conseils régionaux, etc., ils ne venaient pas. Ils ne voulaient pas, disant, le conseil régional, ce n'est pas lui qui finance, donc on ne voit pas pourquoi on va venir, etc. Je pense qu'on a besoin de clarifier, parce qu'y compris après... Et sur les aspects de politique générale, la question de la pression budgétaire répond à des choix de politique générale. Il y a une orientation nationale, européenne. Quand la France a ratifié, quand le président de la République a ratifié le TSCG, quand, alors qu'il avait dit qu'il renégocierait le traité budgétaire. Hein. Et le soir de son investiture, il est allé voir Angela Merkel pour lui dire, finalement, on va le prendre. C'est un choix politique, ce n'est pas une fatalité. Donc ce choix s'inscrit dans une réduction des dépenses publiques. On peut dire, non, mais ça continue de croître. Non, ça croît en valeur absolue, en valeur relative, ça baisse. Hein. Et on n'en est qu'au début. Hein. Parce qu'il y a une inertie, ça veut dire que les 50 milliards annoncés, c'est 50 vrais milliards. Or, quand il faut faire 50 milliards de réduction, il faut prendre l'argent. Et 50 vrais milliards, donc on les trouve partout, dans la réduction, voilà, les 80 millions qu'on va prendre sur la prévention dentaire, etc., parce qu'il faut aller les chercher. Donc ce sont des mesures très concrètes. Hein. Et le reproche que je fais au projet de loi santé, ce n'est pas tellement son orientation, c'est la motivation. Moi, je ne suis pas opposé au développement de la chirurgie ambulatoire. Or, on ne développe pas la chirurgie ambulatoire pour faire mieux, on développe la chirurgie ambulatoire pour faire 450 millions d'économies. Non, mais c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est tel exactement comme la ministre l'a annoncé. Je l'invente pas. Elle dit, on va faire la chirurgie ambulatoire et on va dégager 450 millions d'économies. J'ai dit, attention. Il faut reprendre ses déclarations. Voilà, c'est comme ça. Et elle est contrainte parce qu'il y a un certain nombre de... Voilà.
Juste, je voulais faire une remarque. Il y a peut-être quand même des raisons d'espérer parfois, parce que il se trouve que bon, c'est justement le rôle des citoyens d'être vigilants sur tous ces sujets-là. Et notamment, je voulais rappeler un événement. Pendant des années, on a tout fait pour que le médicament passe à la direction, au niveau européen, à la direction santé-consommation. Puis ça s'est passé dans cette direction. Et quand M. Juncker est devenu président de la Commission européenne, dans les jours qui ont suivi, je crois, le médicament est passé dans l'industrie, donc dans le commerce. Il y a eu une mobilisation, alors je ne sais pas à quel niveau ça s'est passé, mais justement un lobbying qui a réussi, puisque le médicament est revenu à la direction santé. Donc il y a des mouvements qui se sont créés et je pense qu'il est important que tout le monde se sente concerné par ces questions de santé, que ce soit le médicament ou les dispositifs médicaux. Voilà.
Juste à propos de la marchandisation de la santé et du rôle de l'Europe, c'est quand même un petit peu curieux ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est à travers la généralisation des complémentaires santé, on est en train de mettre en place une cotisation obligatoire privée. Puisque l'entreprise va payer en principe minimum 50%. Dans les faits, avec les réductions d'impôts sur les sociétés, ils vont payer que 37%. Mais mettons 50%. Donc d'un côté, on a un discours de baisse des charges sociales, entre guillemets, sur les entreprises. De l'autre côté, on est en train d'inventer une nouvelle cotisation obligatoire. Mais cette cotisation obligatoire, ça ne va pas être un prélèvement obligatoire, puisque ce n'est pas une cotisation obligatoire pour le public, c'est une cotisation obligatoire pour les mutuelles. Donc vous gagnez... du point de vue du gouvernement, sur les deux tableaux, puisque vous baissez les prélèvements obligatoires du côté de la sécurité sociale, que vous compensez par une cotisation obligatoire privée, qui ne va pas rentrer dans les prélèvements obligatoires au niveau européen et dans les normes européennes. Donc on est ici sur une marchandisation extrêmement perverse, puisque au-delà de la logique de marchandisation, on joue sur les chiffres. En fait, c'est la même chose, hein, ce sera toujours la même... Enfin, ce sera le même type de dépenses de santé avec plus de coûts de gestion en plus, mais on est sur la même chose, mais simplement, on passe d'une cotisation publique à une cotisation privée, qui est toujours obligatoire, qui sera plus chère qu'auparavant, hein, parce qu'il y a des coûts de gestion, il y a des dérives du côté à la fois des mutuelles, des assurances de santé, mais en plus, on a ce jeu de bascule. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est très particulier. C'est tout.
Merci. Je suis désolé, on s'engage à terminer à 22h30. Enfin, vous pouvez dire un dernier mot.
Pour préciser le sens de ma pensée sur les usagers, hein, sur la représentation des usagers, tu évoquais les élus, mais les élus ont plein de représentations et je dirais ce que j'attendrais d'une représentation des usagers. Elle n'est pas idéale aujourd'hui, j'en suis totalement conscient, mais ce serait vraiment une compétence développée justement pour représenter cette question de santé. Ce qu'un élu généraliste ne serait pas nécessairement en mesure de faire aussi efficacement. Et puis bon, j'arrête sur la politique générale, je ne reviendrai pas là-dessus. Ouais.
Vas-y. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils sont très présents.
Mais ce sont les premiers concernés, c'est-à-dire les malades chroniques qui ont le sida, qui ont une insuffisance rénale chronique, qui est donc, ils sont très présents partout. Hein.
Oui, alors bon, pour conclure, moi j'ai un petit peu l'impression quand même que ce qui manque au regard de ce qu'on vient d'évoquer, c'est la force des choix politiques. On a l'impression quand même que les politiques actuellement s'inscrivent plus dans une démarche de gestion financière que dans l'affirmation de choix politiques. Parce que, quels que soient les thèmes qu'on a abordés, que ce soit les thèmes d'organisation générale du système de soins, les thèmes d'organisation du système de remboursement, les thèmes d'organisation du financement des investissements, c'est des choix politiques. On peut voter des lois pour aller dans le sens où on veut aller. Or, ce qu'on constate, c'est une sorte d'exhibition de l'impuissance du politique à agir vis-à-vis de choix clairs et explicites. Et le seul moment où on voit les politiques en ce moment s'exprimer, c'est pour justifier les économies. Les économies au sens réduction des dépenses. Et je crois que là, il y a une défaillance forte du champ politique actuellement dans ce qui nous entoure et probablement dans toute l'Europe d'ailleurs à cet égard. Alors, nous terminons ce soir cette réunion, c'est la dernière de l'année. Pour le premier semestre 2015, il y a deux thèmes qui sont arrêtés. Une réunion le 17 février sur le thème environnement et santé et une réunion le 7 avril sur le thème handicap et santé, dans le sens où on va essayer d'aborder la répartition du champ du handicap au regard de la répartition du champ de la santé. Hein, ce n'est pas la santé des personnes handicapées, c'est qu'est-ce qui explique les mouvements de bascule entre l'un et l'autre et comment, à quoi ça peut correspondre. Voilà. Merci, bonne soirée.